cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Canal+ pourrait diffuser les Grands Prix à partir de 2013 via D8.
Dino massacre la langue de Shakespeare.
Felipe Massa prolonge l'aventure en rouge alors que des places restent à prendre, notamment chez Sauber et Force India.
Fab sort du placard.
Le Qatar rêve d'une place sous le soleil alors que New York attendra 2014.
McLaren a le choix des motoristes.
Et Shinji fait un four.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, nous allons revenir sur toute l'actualité de la semaine, mais pour tout vous dire, c'est la fin de l'année. Donc, en fait, le plus tôt, c'est 2013 cette semaine, minimum. Pour nous accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Sylvie.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je me dis juste qu'en entendant ton intro, je me dis cette émission va être longue.
Comme d'habitude.
Je comprends un peu ce que tu vis quand je fais mes proverbes, j'ai pas trop compris.
Mais non, tu verras, ça sera très clair. Allez, dis-nous.
Et donc Shinji, nous ne sommes pas seuls.
Oui, c'est ce que j'allais te répondre, puisque tu m'as eu. Eh bien cette semaine, nous accueillons Fab et Gus Gus.
Eh merde.
Bonsoir messieurs.
On peut toujours partir hein, si tu veux.
Oui, c'est vrai que là, tu sais rien dire.
Viens Fab, on va faire notre propre émission.
Allez, on se casse.
Allez, on se barre.
Mais non, mais c'est parce que ça réduit nos chances pour le concours, quoi. Enfin, pour le quiz. Voilà.
On en est encore là.
C'est clair. Franchement, faut passer à autre chose, les gars.
Mais c'est vrai qu'on a dit qu'on parlait que de 2013 aujourd'hui.
D'ailleurs, dans ce cas-là, bien, commençons tout de suite par le quiz et rappelons qu'actuellement...
Ou si ça va.
C'est vrai que c'est devenu mal poli, cette émission. Le succès vous monte à la tête, les gars.
Vous avez passé une bonne semaine?
Oh, chargé.
Ça va.
Ouais.
Et voilà, tu vois, ils nous font chier juste... Ah!
Ouais, mais c'est les petites attentions du quotidien qui font tout le sel de la vie.
Oh.
Au revoir.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Enfin, duel. Ouais, un duel.
Donc rappelons le score du quiz qui est très serré, hein. Un dino, il est très serré le score.
Oui.
Puisque nous menons 23 à 13, c'est-à-dire moins du double.
Oh, c'est quoi, c'est une cinquième place.
Ah, vous êtes tellement mauvais, aussi mauvais que ça, dis donc.
Bah écoute, on a eu un petit coup de mou là ces derniers temps. On s'est démobilisé. Enfin, disons que c'est Shinji qui a fait des questions, quoi. Pour ça.
Oh, ta gueule. Je t'ai fait des questions sur Ferrari, t'as pas su trouver, hein.
Ah ouais, c'est vrai, franchement.
Justement, c'est les plus durs.
Mais ouais. Mange ton riolet, toi. Messieurs, c'est à vous les chroniqueurs cette semaine.
Oui, et c'est moi qui ai fait le chiffre, donc je vous annonce par avance qu'il est pourri. Hein. Mais
ouais.
Bon, ça concerne soit Lewis, soit McLaren, ok. Oh.
Va y avoir une bonne ambiance ce soir.
Ouais, non mais, toi moi j'étais parti dans l'idée d'une émission chaleureuse, une émission festive.
Voilà. Mais non, mais on en a déjà fait plein des émissions chaleureuses.
Et puis, puis voilà. Puis là j'ai envie de me casser. Salut. Terminé.
On passe le côté chaleureux, on passe à l'émission mesquine. Voilà.
Incroyable. Bon, messieurs, je vous propose un chiffre, hein, comme d'habitude, qui est le chiffre 139.
C'est un rapport avec une écurie spécifiquement?
Oui.
McLaren.
Ah,
ouais. je dois dire que c'est bien tenté, mais c'est non.
Mercedes?
Non.
Ferrari?
Oui.
Ah bah, je renonce.
Tu vois, j'avais bien analysé. Un de moins.
C'est un nombre de 139. Personnes?
Non.
Nombre de kilomètres?
Non.
Il y a une unité derrière?
Distance.
Oui. Oui.
C'est 139 millimètres?
Non, mais c'est distance dans le sens métaphysique.
Oula.
Des années? C'est pas le nombre d'allers-retours qu'a fait la Ferrari pendant les essais en ligne droite. 139 lignes droites.
Ah, non.
C'est pas l'âge qu'aurait Enzo Ferrari s'il était encore vivant?
Si c'était le cas, c'est vrai, quel intérêt. Voilà, bon.
Voilà la bonne ambiance qu'il faut installer.
Non mais attends, tu dis distance métaphysique.
Donc ça peut être converti en distance, voilà.
C'est un nombre de points?
Non.
C'est un nombre de Grand Prix?
Oui, c'est un nombre de Grand Prix.
Le nombre de Grand Prix qu'ils ont de plus que les autres?
Non.
Nombre de Grand Prix où ils n'ont pas été sur le podium?
Non, ça doit être,
non, ça fait peu.
Ça doit être bien plus.
Ouais. Non, c'est bon, hein. C'est bon, monsieur. Ça suffit. Ce mépris envers les écuries italiennes.
C'est le nombre de Grand Prix qu'a disputé Massa chez Ferrari.
C'est pas exactement ça.
Ah,
Massa dans sa brésilien chez Ferrari.
Non.
Avec un moteur Ferrari.
Non.
Massa et Alonso.
Non.
C'est le nombre de Grands Prix consécutifs où il y a eu un Brésilien chez Ferrari.
Bah non.
C'est le nombre de Grands Prix où Massa est à côté d'un champion du monde.
Non, bah non. Enfin, ça dépend comment... Non, de toute façon, non, c'est pas ça.
C'est un nombre de Grands Prix depuis quelque chose qui s'est passé ou...
Oui.
C'est depuis
sa... Bah depuis un début, quoi.
Depuis 2006, du coup. Depuis que Massa est chez Ferrari.
Oui.
Depuis sa première victoire, sa première pole,
non,
podium,
non.
Premier meilleur tour.
Non.
Nombre de grands prix que Massa a passé en même temps que Michael Schumacher en Formule 1.
Non.
Ah non, il a fait qu'une seule saison.
C'est le nombre de grands prix mathématiquement il pouvait jouer le titre.
Non.
mathématiquement, il pouvait plus être champion.
C'est le nombre de grands prix où il était derrière son coéquipier au classement.
Non.
Devant. Enfin...
Le fou.
Non. Attends. Donc c'est une comparaison avec la personne qui était de l'autre côté, enfin dans l'autre voiture Ferrari du coup.
Non.
Non.
Parce que lui a fait plus que 139 Grands Prix pour Ferrari.
Non.
Donc ça comprend aussi ses courses chez Sauber.
Non.
Non parce qu'il s'est début 2006.
Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est sportif?
Ah bah oui.
Son âge?
Son âge en Grand Prix?
Non, en année.
Mon Dieu.
Ça a vraiment un lien avec Ferrari, l'écurie.
Ah bah oui, ça c'est on peut pas plus.
Ah c'est le nombre de consignes d'écurie qu'il a subi.
Non, c'est 240. C'est pas ça. Dis donc, je pensais pas que vous buteriez autant.
Attends, merde.
Ah bah c'est le nombre de points qu'il a marqué en moins par rapport à ses équipiers sur toute la période.
Non, ça fait pas beaucoup avec le nouveau barème. Ouais. C'est un peu salaud ce que je viens de dire, mais... Je dois pas être très loin de la vérité, quand même.
C'est sa taille?
Oh, arrête.
Non, c'est pas ça.
C'est en mètres la distance moyenne qui le sépare de son coéquipier sur la distance d'un Grand Prix. Putain, c'est super alambiqué. Fab, il s'est dit, ah, je vais travailler pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il a fait des calculs et tout.
J'ai pris mon mètre, j'ai calculé, j'ai pris en compte l'offset et tout. Enfin,
c'est le nombre de Massa qu'il faut pour faire le tour du Grand Prix du Brésil.
Mais tu sais que j'y ai pensé en plus, je me suis dit. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est son nombre de tours menés peut-être depuis...
Non.
Kilomètres, pas beaucoup.
Non. Je peux pas trop vous donner d'indices parce qu'après ça va vraiment vous mettre sous la voie, sur la
voie.
C'est
plus un écart qu'une distance ou c'est vraiment une distance à distance?
C'est pas. Oui, mais c'est une distance, mais c'est pas ce pan-là de la réponse que je veux que vous donniez. Ça représente une distance, mais ça m'intéresse pas en fait.
C'est le nombre de non.
Mais peut-être.
Non.
C'est de plus en plus court.
139, donc c'est une distance. Ah, te focalise pas sur le fait que c'est une distance.
C'est 139 fois quelque chose?
Oui.
139 fois le tour de la Terre qu'il a fait avec Ferrari?
Non. Je sais même pas s'il l'a fait une fois d'ailleurs. Non, mais c'est vrai en plus, non, déconnez pas.
139 tours d'un circuit?
Non, mais c'est pas, vous étiez bien tout à l'heure quand vous parliez de Grand Prix.
Donc c'est 139 Grand Prix?
C'est 139 Grand Prix?
Oui.
D'accord.
Sans podium?
Alors? Non.
Dans les points?
Non. Ça fait beaucoup.
À l'arrivée?
Non.
Il a combien de grands prix? Il en a 200 en carrière, Massa.
Ouais, quelque chose comme ça, peut-être un peu.
Et tout
moins.
À l'heure, Shinji était très très proche, hein. Vraiment très très proche. Mais c'était.
Bah, t'aurais pu lui accorder quand même.
Bah, non, je peux pas lui accorder. Il y a une petite subtilité.
Attends.
Mais je pensais que vous buteriez sur la subtilité, pas tellement sur le reste.
C'était quand Shinji il a parlé des coéquipiers, non?
Non, bah, je veux pas te donner ce qu'il a dit, il fallait.
J'étais pas là, j'étais en train de manger un riolet.
Laisse-moi rioler.
Ça y est, on peut arrêter l'émission, Shinji, c'est bon. Ça y est, on arrête. Tu vois, je me suis dit, il y a un moment donné, il y a un jour, je saurais que le SAV c'est terminé. Ça s'arrête maintenant. Voilà. Je suis désolé, j'arrête le SAV.
Ah bah non, dis pas ça. En plus, on a plein de choses à offrir au monde.
Attends, 139 Grand Prix. Avec le deuxième numéro de la voiture?
Bah.
Avec le numéro 6?
Non, mais c'est pas une histoire de numéro.
Ah, mais en tant que, officiellement, en tant que numéro 2.
Ouais.
Bah non, même pas. Enfin, attends. Non, bah non, même pas sûr. Non.
Attends, 139 Grand Prix, ça fait donc...
Ça fait 8 saisons, quelque chose dans le genre.
Ouais.
Allez, Gus, là, c'est l'occasion, vous l'avez.
On a perdu
Shinji en plus.
Justement, vite.
Je sais plus si j'ai posé cette question, mais est-ce que ça a une accroche dans l'actualité récente, quand même? Enfin, dans depuis le dernier match.
Oui.
Donc c'est une série qui l'aurait arrêté à la dernière course.
Non, justement.
139.
Donc c'est statistique, enfin c'est un truc qu'on pourrait retrouver sur Stat F1 par exemple.
Pas ce chiffre.
C'est le nombre de Grand Prix, c'est la distance de Grand Prix qu'il a fait en essai.
Non.
Non, merde, j'étais pas loin.
J'apprends à jongler. Hein.
Attends, il apprend à jongler, ça se trouve il y a un indice là-dedans, il apprend à jongler.
C'est le nombre de Grand Prix où il a jonglé pendant la course, tellement il s'est chier.
Putain, on est nul ce soir.
Oh, ben en plus.
Ah, surtout Shinji.
Shinji, c'est rien. Shinji, on t'entend jamais.
Mince, 139, c'est 139 Grand Prix. Mais c'est quelque chose qui concerne que Ferrari ou c'est, ça pourrait le comparer à d'autres pilotes dans d'autres écuries?
Ça concerne que Ferrari, ça concerne que Massa.
139 Grand Prix avec le même casque?
Non, bah non, même pas. Enfin oui, bah, sans doute, mais je sais pas.
Avec le même ingénieur.
Avec le moteur Ferrari V8?
Non.
Avec, pas André Astella, oui, avec mince.
Rob Smedley. Pas
André Astella, mais Rob Smedley.
Non. Non, mais faut que j'essaie de vous trouver un indice quand même. Parce que j'avais pas prévu d'indice en fait.
Tu te dis, ah, c'est pas
ça. Bah, je me suis dit, ça va être trouvé en 2 minutes.
Bon, chers auditeurs, aidez-nous.
Envoyez vos réponses. Attends, je vais essayer de fabriquer un indice là, comme ça.
Grand Prix, c'est lié à l'expérience qu'il a. Il est à 139 Grand Prix du pilote qui a le plus de Grand Prix chez Ferrari.
Ah non, mais il y a de l'idée.
Est-ce qu'il a fait plus ou moins que 139 Grand Prix chez Ferrari?
C'est-à-dire
Did he make more than 139 Grand Prix in Ferrari?
Ah, yeah, okay, okay.
Thank you.
That's a difficult question, you know. Actuellement, non.
Ah bah, c'est ce qu'il va faire d'ici la fin de la saison prochaine. Il va faire 139 Grand Prix, il aura fait 139 Grand Prix en fin 2013.
Exactement.
J'ai dit, on est trop bon. Merde, il n'est pas là.
Il vient d'arriver. Enfin...
Tu peux fêter ta victoire avec nous. Bravo, dis donc.
Faut que j'appelle mon pote.
Non, il faut les faire trouver, attends.
Oui, alors, est-ce que c'est le nombre de fours qui ont sauté chez Massa? Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est un truc qui peut arriver à tout le monde.
Oui. Ton four a sauté.
Oui.
À 139 degrés?
Mais c'est-à-dire qu'il a sauté, ça va?
Oui, c'est juste que, voilà, t'as allumé le courant et pouf!
Non, les gars, bah, c'est la...
Oui, bien sûr, ma maison est en train de cramer.
C'est le genre de phrase qui, en Corse, veut pas dire pareil.
Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle.
Ils ont trouvé. Sèche, hein, Shinji, on a besoin de toi.
Là,
Ils ont trouvé.
Bah, non, Shinji, tu me connais, voyons. C'est moi qui ai trouvé. Par le vent. Ah, le moment de solitude.
Ça fait rire qu'une personne.
Moi, si vous voulez, je reviens. C'est pas que si j'étais au courant de trucs, quoi. C'est...
Ah bah, au courant, non. Non, mais on a trouvé, enfin, j'ai trouvé, mais on a trouvé, on a gagné, on a 2 points.
Bah, c'est génial. Mais c'est quoi?
De toute façon, j'aime.
Merde.
Ah, on remet les points en jeu.
Vas-y, Marc. C'est ta chance.
Alors, c'est le nombre de Grand Prix qu'aura Massa chez Ferrari à la fin de la saison 2013. Wouhou!
Oui!
Oh!
Ouais, alors,
non, mais, non, mais c'est bon.
23-15, putain, remonte, on va peut-être gagner.
Ah, ça fait 25-13. Bon. Voilà, Shinji, on a gagné. Wouhou!
Donc, bravo, Dino.
Merci, Fab.
Vraiment,
félicitations. Je vois que j'ai le soutien de mon coéquipier, ça fait plaisir.
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais pas là, moi, j'étais en train de chercher un fusible.
Mais on s'en fout, tu pourrais avoir l'air heureux quand même.
Mais je suis content, mais on n'est pas. Oui, je suis content, on dirait pas comme ça, mais je suis content. Même si on vient de perdre un four chez moi, mais c'est pas grave.
Mais on s'en fout, j'ai dit, c'est un four, là, je te parle de notre honneur, tu vois, de. On revient, quoi. Enfin,
comme quoi, t'es capable de répondre à des questions sur Ferrari.
Oui, moi, j'ai eu du mal. Hein. Enfin, je dis j'ai, c'est-à-dire, on a eu du mal.
Ah non, moi, je savais, j'étais juste essayé de gagner.
Ah, merci.
On y tient à ce gage.
Ah, vous savez, hein, que ce soit une branlée ou pas, le gage sera de même. Hein.
Oui, bah justement, autant que ce soit une vraie branlée.
Autant qu'on le mérite, vraiment.
Alors oui, donc 139 Grand Prix en fin de saison prochaine. Alors 139, hein, bien sûr, ou 140, hein, tout dépend si on remplace le Grand Prix des États-Unis. Enfin, le Grand Prix de New York.
Il sera à 120 à la fin de l'année.
C'est ça. Et donc, bah, pour vous situer, Felipe Massa, c'est quand même le deuxième pilote qui a le plus couru de Grand Prix chez Ferrari dans toute l'histoire du constructeur. Donc, il est actuellement à 116 Grand Prix. Il a dépassé en début d'année Barrichello, qui lui en était à 102.
C'est encore une question de qui est le premier, mystère.
Oui. D'ailleurs, qui est le premier?
Mystère.
Mystère 11, c'est ça. Donc Schumacher évidemment très difficilement atteignable pour l'instant puisqu'on est à 180 Grands Prix, ce sera sans doute pas Massa qui ira le chercher. Après, est-ce que vous savez quels pilotes ont font partie du top 10 de Ferrari?
Loda.
Loda, c'est le 10e, 57 Grands Prix.
Berger.
Berger, c'est le 4e, exactement, 96 Grands Prix.
Allez-y,
oui. 70.
Irvine.
Allez-y, qui est 6e. Irvine, oui, 65 Grands Prix.
Ça va être dans les dernières saisons, je pense.
C'est que des winners.
Villeneuve.
Scheckter.
Villeneuve, 66 Grands Prix.
Bah, Alonso, il a dû en accumuler déjà pas mal.
Oui, Alonso, oui.
Alors, Alonso, lui, il en est à 54 Grands Prix et à la fin de l'année, il rentrera dans le top 10 et en éjectera Loda avec 58 Grands Prix.
Scheckter.
Non, Scheckter n'en a fait que 30.
Enfin, X.
X, oui. Non, X est 11e avec 55 Grands Prix.
Tourne autour.
Il doit y avoir...
Regazzoni,
exactement, 73 Grands Prix.
Phil Hill.
Phil Hill, non, c'est comme Scheckter, il est à 30 Grands Prix.
Surtees,
il est qu'à 28 Grands Prix.
Donc là, on en a combien dans les 10 premiers?
Là, vous en avez eu 9 sur 10, donc il en reste 1.
Et c'est lequel qui nous manque?
C'est un pilote des années 80.
Arnoux?
Non, c'est pas Arnoux.
Pironi?
C'est pas Pironi.
Non, pas Pironi.
Villeneuve?
Villeneuve a été cité, 66 Grands Prix.
Alboreto?
Oui, c'est Alboreto.
Ah!
80 Grands Prix. Donc, vous pouvez quand même constater que dans le ventre mou du top 10, il y a quand même que des gars que des winners, quoi. Des mecs, des vaches maigres de Ferrari, quoi. Parce que Berger, Alboreto, allez-y. Bon, Regazzoni encore, ça va.
Ouais, non, mais c'est pas juste parce que c'est la période où les saisons étaient les plus longues. Donc c'est
ah, bah, mais c'est pas mon
les
problème.
Mecs,
écoutez, on ne choisit pas ces vaches maigres, monsieur.
Ah, c'est facile chez McLaren, c'est leur période l'âge doré, quoi, donc c'est bon.
C'est pas parce que t'as la plus grande écurie du sport automobile, mais que c'est McLaren qui a marqué la Formule 1, qu'il faut se calme-toi, je dis. c'est comme ça. Bon, allez. Donc Alonso, on l'a cité, qui est 12e de ce classement. Raikkonen est 13e avec 52 Grands Prix. On en a parlé donc un petit peu, Scheckter, Surtees, Hill, les champions du monde. Donc, faut quand même noter que les champions du monde chez Ferrari font en général assez peu de grands prix comparativement. Alors évidemment, il y en a beaucoup dans les années 50-60, ce qui explique. Par exemple, Ascari a fait que 27 grands prix. Alors bon, c'est quand même pas mal pour le...
La mauvaise foi de ce mec. Il va nous sortir les Ascari et compagnie. Ils ont pas fait beaucoup de grands prix.
Ah oui, mais il a pas fait... Mais écoute, Ascari n'a
pas fait grand chose.
À part se baigner dans le port de Monaco, qu'est-ce qu'il fait, ce type-là?
Mais non, mais 27 grands prix. Mais à l'époque, c'est énorme, 27 grands prix. Mais c'est 4 ou 5
bien
saisons.
Bien sûr, bien sûr. Mais nos auditeurs ne sont pas bêtes. Fangio, un titre de champion du monde, 7 grands prix. C'est quand même un bon rapport. Mike Hawthorn, lui, a fait 35 grands prix. C'est quand même pas mal parce que lui aussi, il courait quand même dans les années 50. Après, des noms marquants, Prost a fait 30 Grands Prix, Mansell a fait 31 Grands Prix, Andretti a fait 12 Grands Prix et Bandini a fait 35 Grands Prix. Voilà.
Mm-hmm. Et Badoer, là, il en a fait deux.
Voilà, le plus marquant, c'est quand même Badoer.
Badoer.
Ah, de ceux qui en ont deux, ah, c'est lui qui nous l'a le plus marqué.
Mais c'était fort intéressant.
On dit pas ça.
Oh, ça, écoute, là, franchement...
Qu'est-ce qu'il lançait, il était pas là.
J'ai été là une partie. Donc pendant
ouais,
au moins
pas
une
partie, la
partie, c'était fort voilà, intéressant. Allez, messieurs, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Comme je vous l'ai dit, on est au mois d'octobre, presque novembre, et c'est vrai, ça y est, 2012 c'est presque fini, c'est 2013, voire plus loin, et on va commencer comme première actu, on va faire comme d'habitude, le point transfert, il y a toujours des points transfert toutes les semaines, vous savez, et on va commencer par d'abord ce qui a été annoncé, et c'est bien parce que c'est dans le prolongement de ce quiz, c'est Felipe Massa, donc il reste un an chez Ferrari. Je précise bien, il reste un an.
Ouais. Ah, on va souffrir l'année prochaine. Oh, on peut pas souffrir moins que cette année quand même.
Oh, j'y crois
plus.
Oh,
les pauvres, ils sont en lutte pour le titre.
Oui, non, Ferrari, ils sont en lutte, mais pas Massa.
Oh, bah, Massa, il fait partie.
On pourrait être en lutte pour le constructeur avec un bon Massa, merde. Non, tenez pas de la faute de Massa.
Non.
C'est aussi de la faute de Rob Spender.
C'est rare quand même, hein, les contrats d'un an chez Ferrari.
Oui. Il faut dire que quand t'as déjà un mec sous contrat en 2014...
C'est pour combler.
À un moment donné, il faut faire des choix.
Ah, mais c'est bien, ça lui laisse un an pour essayer de convaincre une autre équipe de l'embaucher.
S'il vous plaît, Adorasiel, donnez-moi le maquillage.
Ah ouais, ouais, ouais.
Voilà, ça c'est bien. Hein, vous n'êtes pas content pour ce cher Felipe?
Bah, de toute façon, ce qu'il y avait de mieux à mettre dans le baquet, juste pour un an, mettre un Bianchi qui n'a pas d'expérience, c'était, je pense, hors de question. Hülkenberg, tout ça, ça manque un peu d'expérience aussi. Tant qu'à faire, autant garder celui qui est déjà là et qui finalement, même au fil de la saison, quand même, ramarre Alonso, quoi.
Et là, on l'a vu en Corée avec le développement des nouvelles pièces et compagnie, on lui a donné les nouvelles pièces, et lui, on peut se permettre de lui donner, parce qu'il a l'expérience, quand même, malgré tout, même s'il n'est pas forcément, il n'a pas été très performant cette année, il a quand même l'expérience et le bagage pour pouvoir donner des retours, il a de la crédibilité auprès de l'équipe, malgré tout, et puis pour l'année prochaine, la saison 2014, ce sera aussi important d'avoir un mec comme lui, qui connaît la maison et compagnie, d'avoir une certaine stabilité, donc c'est peut-être mieux effectivement de le garder l'année prochaine, qui sera une année décisive en termes de développement.
Dans ce cas-là, passons à l'autre partie des transferts. Parce que bon, visiblement, Felipe Massa, ça vous inspire pas plus que ça. Là, je pense déjà, vous allez plus parler. C'est maintenant toutes les rumeurs. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'avenir flou des pilotes Williams.
Mais c'est parce qu'ils sont rapides, c'est pour ça qu'ils sont flous.
D'après vous, qui sera dans les qui sera dans le baquet des Williams l'an prochain?
Ah, ça sent compliqué de se passer de Maldonado.
Ouais, et puis en plus avec les récents élections au Venezuela, il est quand même rassuré d'avoir le soutien de PDVSA. Donc bon, c'est quand même une manne importante. c'est vrai que
c'est un temps quand même.
Je me suis dit, on va s'attirer les poudres de Hugo Chavez.
J'aurais dû dire autrement, je sais, mais je sais pas pourquoi. À l'aise. Non mais voilà, après en même temps, enfin, ce raisonnement consistant à baser le baquet 2013 sur les sponsors, on peut très bien l'appliquer à Senna aussi, pourtant son avenir paraît encore un peu plus flou que celui de Maldonado. À vrai dire, en réfléchissant bien, qu'est-ce qui pourrait faire que Bottas, qui paraît être le candidat quand même numéro 1, prenne la place de Senna? Senna fait quand même pas une mauvaise saison, enfin on l'a déjà dit à plusieurs reprises, certes, il est pas toujours extrêmement brillant, mais il est régulier. Il a pour lui la régularité comparé à Maldonado, qui à l'inverse peut être brillant mais irrégulier.
Oui, mais Franck aime Valtteri.
Oui, mais Valtteri n'a pas d'argent.
Oui, mais Pasteur a du pognon.
Oui, mais Franck aime l'argent.
Non, mais si sincèrement, s'il faut en garder un des deux, il n'y a aucune discussion, c'est Maldonado, parce que même s'il n'a pas forcément toujours eu les résultats,
sa victoire aussi le renforce. Hein.
Et à sa victoire, et puis même globalement, il faut quand même regarder la physionomie des courses. Il a quand même été régulièrement là et d'un bon niveau. Il faut juste qu'il arrête de faire des conneries. Et s'il n'avait pas fait de bêtises cette année, il était peut-être dans le top 8 du championnat. Donc voilà, il faut juste vraiment qu'il se calme sur ces choses-là. C'est davantage une valeur sûre, c'est davantage une assurance d'avoir des bons résultats à Maldonado que Senna. Après, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les sponsors de Senna sont pas non plus mirobolants. Et faut pas oublier, c'est que Bottas, il s'inscrit dans un vrai processus de développement avec Williams. C'est étape en étape sur un projet à long terme. Et donc, ça serait logique qu'il fasse les Grands Prix l'année prochaine. Pourquoi pas imaginer ce qu'avait fait Red Bull il y a quelques années, c'est-à-dire moitié le Grand Prix Bottas, moitié le Grand Prix Senna, par exemple.
Gus Gus, toi, t'es plutôt Bottas ou Senna?
Je suis quartier client.
Voir un autre. Non, mais c'est vrai, pas un autre.
Non, plutôt Bottas. Comme l'a dit Dino, effectivement, il joue sur l'avenir. Et il y a un moment, Bottas n'a pas fait de compétition depuis 2011, je crois. Donc, un an sans faire de compétition, même si tu fais les vendredis matins, tout ça, ça peut créer des lacunes. Donc, je pense que ce serait le moment de mettre Bottas, même s'il n'apporte pas autant d'argent que Senna.
Je pense aussi. Puis on sent quand même il y a une grosse envie des deux côtés pour que Bottas soit dans le baquet.
Oui, c'est sûr que oui.
C'est pas simplement être pilote. On sent que dès qu'ils peuvent le mettre, ils le mettent.
Non, puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que Bottas est fortement soutenu par Toto Wolff, qui est l'un des actionnaires et aujourd'hui il prend de plus en plus de place dans l'écurie. Que c'est un soutien depuis de longues dates de Bottas. Et donc théoriquement, s'il y a à choisir, on préférera peut-être donner le baquet à Bottas.
Alors sinon, deuxième équipe, Sauber. Alors là, ça paraît plus probable. En tout cas,
ce serait fait.
Ça serait même fait. Ouais. Voilà. Donc l'an prochain, sachant qu'ils ont dit qu'ils l'annonceraient avant la fin de saison. Voilà. Ça serait donc Hülkenberg et Gutiérrez. Gutiérrez qui en plus sera aux journées célèbres en fin d'année pour l'acclimater. C'est une paire plus que probable, en tout cas tout à fait réaliste pour Sauber.
Bah visiblement il y a Sébastien Buemi qui a dit que maintenant chez
que
Sauber,
c'était bouclé.
Fermé.
En tout cas, voilà.
Ouais. Et je crois que c'est Radia
qui a,
oui, dans ses déclarations
aussi,
parce qu'il veut venir en Formule 1.
C'était bouclé chez Sauber. Gutiérrez, voilà. C'est dans la logique de succession de Pérez, donc voilà, ça paraît complètement normal. Hülkenberg, bah c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses, donc pourquoi pas.
Hülkenberg, j'ai quand même du mal à suivre son plan de carrière en fait. C'est une saison par une saison, enfin c'est étonnant, non ? Dans une progression.
Bah en même temps, si c'est fait ça, c'est quand même du progrès. C'est certes, il change souvent, mais
à ce rythme-là, dans 3 ans, il est chez Ferrari.
Oui,
bah c'est ça.
C'est ça.
Qu'après, il y a quoi, Mercedes ?
Ah bah 2014, il remplace Rosberg chez Mercedes. En 2015, il passe à la place de Button qui partira à la retraite. Et en 2016, fin de contrat d'Alonso qui part à la retraite et il passe chez Ferrari.
Hülkenberg, Vettel, chez Ferrari. Faut qu'on avance.
Avançons. Et bien dans ce cas-là, puisque Hülkenberg...
Bah non, mais on parle pas de Kobayashi.
Bon,
vous en branlez en fait. C'est, ça.
Bah, c'est triste pour lui. Si c'est ça, c'est super triste parce que.
Après, ça dépend où il peut aller, quoi. Je pense que Kobayashi peut être curé ailleurs.
Pourquoi
peut-être
pas
que s'il a ou c'est ou chez Williams.
Non.
Bah Williams.
Kobayashi Maldonado, l'écurie d'enfer. Alors cette année, nous avons décidé d'investir dans le carbone parce que on ne sait pas. On a un pressentiment.
Et les pare-buffles.
Et d'ailleurs, Pirelli nous a proposé des pneus spécifiques hein, qui tiendront le coup.
Clou.
Voilà.
Pour bien agripper à la piste.
La voiture sera sponsorisée par John Bond
et par Hansa Plast.
Mais...
Bon, pense sont...
faut le répéter 4 fois.
Oui, je sais, oui. C'est vrai.
Non, mais après tout, puisque bon, Williams, ça paraît quand même plutôt fermé. Ils en ont déjà 3 potentiels. Pourquoi pas chez Force India ?
Bah, ça oui, Force India, c'est pas fermé apparemment.
Ah, ouais, non, visiblement.
Oui, bah, si t'es. Si l'argent est sponsor.
Visiblement, pour Bianchi.
Ouais, je crois que c'est mort. C'est pas de bol, c'est le seul mec qui va pas avoir droit à la politique maison. C'est vraiment dommage. Ouais, parce qu'on parle de, enfin, Force India, apparemment, alors, après, c'est des bruits de couloir, mais Force India aimerait, enfin, serait pas contre l'idée de reprendre Sutil.
Oh non.
Bon, après, c'est un choix étonnant, mais dans un sens qui se comprend aussi, il a quand même été là depuis le début de la structure.
Il approchera pas du stand Lotus, c'est tout.
Moi, je crois qu'il viendra plus aux soirées.
Dis donc.
Après, il y a le Garçoiry. Oh, soyons sérieux.
Il y a Bémy.
Soyons sérieux.
Oh, soyons sérieux.
Parce que bon, Diresta, il devrait être là l'an prochain. Rassurez-nous. Troisième pilote chez Mercedes.
Apparemment, rien n'est sûr sur Force India, donc bon.
Ah, ils ont assuré, parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt, compagnie, et d'ailleurs, je crois que Kingfisher, la compagnie aérienne de Vijaymalia, s'est vu retirer son autorisation de vol, histoire de dette, ou je sais plus quoi. Et là, il a assuré aujourd'hui ou hier, il a assuré l'équipe que ça ne changerait rien à l'investissement dans l'écurie, que l'écurie continuerait. Ah, ça nous rassure. Merci.
Ça veut dire que malheur.
Ouais.
C'est ce que ça veut dire. Donc, dernière rumeur, alors qui s'emboîte bien quand même avec le contrat de 1 an de Philippe Massa, c'est ce cher Sébastien, hein, retour après 2014, hein, enfin après 2013, Fernando et Sébastien dans une voiture rouge, hein, le truc qui fait pas du tout peur à tout le monde.
Je n'ai pas peur, Shinji.
Oui, non mais toi c'est normal. Toi, si ça arrive, tu vas avoir une érection de 10 mois, mais
Et encore.
Non, mais sincèrement, ça fait pas rêver personne, quoi. Vettel, Alonso,
etc. J'avoue.
C'est sérieux. On peut très bien ne pas aimer ni l'un ni l'autre, mais c'est deux mecs qui ont à peu près le même caractère. C'est deux chiens et compagnie. Mais bon, voilà.
C'est la ultra team. C'est France Sénat, quoi.
Quand tu les vois à Monza depuis 2 ans, tu dis oh putain ces deux-là dans la même équipe à Monza, ça va acheter. Va falloir faire gaffe dans tous les virages.
C'est quand même 5 titres. Hein. Bon, ils ont déjà eu mieux chez Ferrari, mais
tu t'avances. N'écarpore avec Hélène.
Et on ne sait pas ce qui se passera en 2013. Non mais voilà, on peut imaginer 5 titres pour une fois répartis sur 2 pilotes. Parce qu'ils ont connu mieux, mais c'était sur 1 pilote. Non mais c'est vrai, c'est presque une dream team quoi.
Mais ça,
de
ça,
là
ça,
à ce qu'ils viennent. Oui, alors on vient avec Sébastien Vettel et devinez quoi, on a embauché Adrian Newey pour fabriquer la Ferrari.
Ouais, non mais ça va.
C'est Mercedes qui va tirer la gueule.
Laissez des chances aux autres.
Parce que visiblement, Adrian Newey et Sébastien Vettel attiraient relativement Mercedes. On se demande pourquoi.
Ça, c'est la grosse news, ça. C'est Mercedes s'est renseigné sur le salaire d'Adrian Newey sur la fin de son contrat. Oui, mais comme toutes les équipes, voilà, moi, je serai à HRT, je me renseignerai.
Cas où, hein.
Ouais. On sait jamais.
Ouais, dire, genre, ah ouais, quand même.
Genre, je suis à 2 ans de la retraite, après tout. Pourquoi pas un dernier défi,
Bon, attendez, ça veut dire que si on retire la deuxième voiture, on ne paye plus le salaire à Pedro de la Rosa, on vire la moitié de l'équipe, on déménage pour aller dans une cabane de pêcheurs au bord de la plage, on pourrait s'offrir à Adrian Newey, Sébastien Vettel.
Et lui payer des cours d'espagnol.
Non mais à part Dino, bon lui on s'en doute. Vous, ça vous fait peur? Ou si vous dites ouais, ça va être une Dream Team. Ça pourrait être une Dream Team. C'est que de la rumeur.
Ah, moi non, ça me fait pas peur, moi je. Ouais. Moi je me frotte les mains, moi je parie que Dino.
Moi de quoi j'ai peur, de toute façon. Je suis peur de la Rosa, donc m'en fous.
Non, puis sincèrement, s'il y en a bien un qui doit pas avoir peur, c'est Fab. Attends, tu mets les deux meilleurs dans la même équipe. C'est les autres qui se frottent les mains.
Oui,
ils vont se frotter les points. Ça fait des années que nous chez Ferrari, on se dit, on a un numéro 1 et un numéro 2, et les autres, bah, ils se partagent les points chez McLaren, par exemple. Là, ça sera l'inverse chez Ferrari. C'est les autres qui vont être contents.
Non, c'est vrai que.
Non, mais c'est ça, mais rien que pour avoir, t'imagines Alonso confronté à Vettel.
T'imagines en début de saison, bon alors Fernando, cette année, tu seras le numéro 1. Sébastien, cette année, tu seras le
1 bis.
1 bis! Bon, en fait.
Mais tu verras, le bis, il est écrit tout petit, hein.
Il est tout petit! Tout petit.
Ah mais après rien ne dit que Alonso restera.
Oui, il a pas un contrat à vie lui.
Ah, il a un contrat jusqu'en 2016, mais il peut très bien partir avant. Il semblerait apparemment que ce soit un contrat avec des options en fait, c'est-à-dire qu'il se renouvelle automatiquement, sauf s'il décide d'arrêter lui. Mais rien n'empêcherait lui de dire fin 2014 s'il est champion cette année et si l'année prochaine il est encore champion, il sera 4 fois champion du monde. Peut-être rien n'empêchera lui de dire bah écoutez c'est bon, je suis 4 fois champion du monde, j'ai réussi tout ce que je voulais faire en Formule 1, je m'en vais.
Ah, en tout cas, dans les bruits de couloir qui ont circulé, apparemment, il aurait approuvé le fait que ce Vettel signe.
Oui.
Alors après, est-ce qu'il a approuvé en sachant qu'il va terminer sa carrière ou en sachant qu'il allait l'affronter sur la fin de la sienne?
Ils ont peut-être fait le coup vraiment sans savoir. Tu veux un peu de Vettel? Oui. Tu vois, un truc comme ça. Tu peux te faire avoir. Un genre de truc comme ça.
Tout ça pour ça. Pendant 10 secondes, on se dit, mais.
Non, mais attends, je dois dire. Non, mais les auditeurs ont droit à la vérité. Bah, j'en ai chié pour le lancer. J'avoue que le départ a patiné un peu.
Attends, on aurait dit un départ de Marc Weber.
Ouais. J'ai dit du côté sale de la piste, je peux te dire.
Raison. Puis comme Marc Weber, au bout d'un mois, il s'envole. C'est logique. Ouais.
Et buvez. Éliminé.
Ah bah ça va éliminer en 2014.
Allez, on va continuer de parler de l'avenir, hein, parce que c'est le SAV du futur cette semaine. Avec cette actualité qui vous a inspiré, c'est McLaren face au choix du motoriste. Parce que oui, l'an prochain, McLaren, ils payent leurs moteurs. Et c'est pas leur genre de payer les moteurs chez McLaren.
Ouais, mais ils pognent quand même.
Ils les volent.
Ils vont payer 8 millions, mais en même temps, ils payent plus Hamilton. Visiblement, apparemment, ils ont fait une très très belle opération avec Perez. Je crois que Perez, il va pas être payé très cher l'année prochaine.
Perez, donc... c'est quoi? Ah, c'est 10 millions. Non, c'est 100 000. 100 000.
C'est... Non, mais je crois que c'est un truc genre 1 million et demi, puis après c'est 3 millions et demi, enfin 1 million et demi, 2 millions et demi, 3 millions et demi, 4 millions et demi au bout de la quatrième année.
Oui, et c'est en pesos, hein.
Oui, voilà.
En pesos guatémaltèques. Donc pour à peu près 3 millions de pesos guatémaltèques, tu achètes un carambar. Oui. Non mais même s'ils économisent, historiquement depuis 30 ans, quasiment tout le temps, ils ont été associés, en tout cas vraiment équipe première d'un motoriste.
Bah oui.
Je veux dire, que ce soit TAG, que ce soit Honda, où il y a eu une année avec Ford, bon, là où ils étaient clients.
Une année avec après... Peugeot.
Ils n'étaient pas clients, hein.
T'imagines ça... McLaren Peugeot, c'est quand même quelque chose. Folklorique.
Ouais, oui, ça a existé.
Ouais,
et Peugeot ne payait pas McLaren, hein, pour mettre ses moteurs, hein. Faut bien préciser, hein. C'est McLaren qui payait. Hein. Et donc, près de 15 ans d'association avec Mercedes. Alors, il y a plein, ça a été évoqué, c'est évoqué dans l'article, hein. Il y a plein de possibilités. Bah, déjà, et la première, c'est tout simplement de continuer avec Mercedes, après tout, puisque ça marche bien. On parle alors, il y a la rumeur Porsche, la rumeur Honda, il y a la rumeur, après tout, pourquoi pas y aller tout seul. Qu'en pensez-vous?
Oui, après tout. Hein,
bah non, c'est vrai, pourquoi pas. Qu'en pensez-vous?
Et Ferrari, McLaren, Ferrari.
T'imagines?
Alors justement, on a mis un sondage...
Il y a plus de chances de voir un jour McLaren-Renault que McLaren-Ferrari.
On a mis un sondage dans l'article, justement, et on va regarder le résultat. Donc, on est mardi soir. L'article a été publié ce matin. Donc, il y a pas mal eu de personnes qui a dû voter.
Roulement de tambour.
Alors, d'après ce sondage, avec 160 votes tout de même.
Joli.
Nous avons en tête... Oh non, on va commencer par le dernier.
Le dernier.
avec 0 vote,
HRT,
et donc 0% un autre motoriste.
Donc un motoriste qui ne serait pas présent en F1, qui ne serait pas McLaren, et qui ne serait pas parmi les rumeurs. Hein. Donc voilà, voilà, Peugeot, Hyundai, hein, pourquoi pas,
Lada.
Non, Dacia c'est du Renault.
un vote, 0,63% Cosworth.
Oui. En même temps, McLaren, ils ont l'habitude d'utiliser le Kers, voilà, donc rien que ça, c'est pas possible.
4 votes, 2,5% Ferrari.
Il y a des gens qui ont le droit de rêver, sinon.
Je me suis dit, c'était trop beau, fallait le mettre dans le sondage, quoi, c'est, voilà. 13 votes, et 8,13%, et c'est dire que beaucoup de gens ne croient pas en l'avenir de Mercedes chez Ferrari, c'est Mercedes.
Non, chez McLaren.
Chez McLaren. C'est... Non, il n'y a aucun avenir chez Ferrari.
Ferrari, c'est rare, mais Ferrari-Mercedes, je crois que c'est encore plus rare.
Alors, tu découvriras, mon cher Shinji, qu'il y a, voilà, effectivement, que Ferrari a eu un moteur Jaguar.
J'ai pas dit que
c'était une Ferrari cliente, hein.
Oui, je veux pas savoir.
Oui.
Les faits sont là, monsieur.
Avec 17 votes, 10,63% le Renault. Mmh. Et puis après, bah, c'est les historiques, hein. Donc c'est 29 votes, 18,13% Porsche. 30 votes, 18,75% McLaren, qui ferait son propre moteur. Et 66 votes, 41,25% Honda. C'est la période la plus fastueuse de McLaren en termes de résultats.
Le sondage après... est sans doute un peu influencé par le côté nostalgique de la chose, quand même.
La photo.
Oui. Non, puis parce qu'il y a, enfin, Honda c'est français, quoi. Donc...
oui, c'est encore le chauvinisme qui était dénoncé. La
incroyable.
Bon après Porsche, comme ils l'ont dit, hein, ils sont sur leur projet d'endurance. Même si il y a toutes ces rumeurs par rapport à tout ce qu'ils font. Oui, on utilise la soufflerie McLaren. Oui, on a embauché des gens de la F1, mais c'est que pour l'endurance. Ça pourrait être une belle façon de revenir en F1, en effet, de faire motoriste et associé à McLaren. Honda c'est un peu pareil.
Mais en tout cas, moi je pense que parmi tous les noms qui sont cités, à part Renault et Cosworth, si vraiment un miracle se produit ou qu'ils arrivent à s'associer avec Pure ou d'une façon ou d'une autre, Honda ou Porsche, je vois pas ça avant 2016. Même Honda, dont on n'a pas de chiffres annoncés, ça se saurait, le programme serait déjà bien avancé comme Renault qui a, vous en aurez bientôt des nouvelles sur Fan F1, qui a publié des photos de son moteur 2014. Signe que le projet est bien avancé. D'ailleurs, ils étaient tellement avancés qu'ils avaient déjà mis au banc, avant même qu'on change d'architecture, ils avaient déjà mis au banc un 4 cylindres en ligne. Quoi. Donc
en fait je crois que Vettel va rester chez Red Bull l'année prochaine.
Oui, mais
passons tous, hein, si ça arrive. Bon, là le contrat il est jusqu'en 2015, donc dans le meilleur des cas s'il changeait ça serait pas avant 2016,
donc bah voilà.
Mais dans le cas, ça pourrait rendre réaliste, en effet, Porsche ou Honda. Voir son propre moteur. Parce qu'après tout, McLaren entend devenir un constructeur. Ils le sont devenus. Après tout, pourquoi pas se lancer dans la fabrication de leur propre moteur?
Moi, j'y crois pas trop à cette solution-là. À vrai dire, je pense qu'ils continueront avec Mercedes. Mais s'il devait y avoir une option entre Porsche, par exemple, et Honda, je pense que ça pourrait peut-être venir de Honda qui a récemment... les dirigeants de Honda ont récemment déclaré qu'ils gardaient un œil sur la F1, qu'ils allaient s'investir en WTCC, surtout, mais que potentiellement, ils pourraient revenir dans la Formule 1, bah, évidemment, à moyen, à long terme. Et peut-être que passer d'abord par la porte des motoristes, ça peut être aussi une solution pour eux de remettre un pied dans la discipline.
C'est ce qu'ils ont fait de mieux en F1. Donc,
c'est
même l'idéal, quoi. Non, mais c'est vrai, de tout ce qu'ils ont fait en F1, bon, c'est ce qu'ils ont fait de mieux, les moteurs.
Non, ils ont fait la BGP01.
Oui, c'est vrai aussi.
Oui, c'est vrai. Ils l'ont payé, surtout. On passe à la quatrième actu dans ce cas-là, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, je voulais dire un truc, maintenant que je me rappelle. C'était de dire que, de toute façon, les grands constructeurs comme Honda ou Renault qui ont toujours un pied dans les... en F1 ou en sport mécanique en général, ont toujours une cellule de veille technologique pour voir ce qui se fait, comment les règlements évoluent, et déterminer des concepts avant même que la décision de revenir en sport auto se fasse. Donc effectivement, c'est pas étonnant que Honda dit oui, on suit de près, parce qu'ils ont probablement quelques ingénieurs qui regardent ce qui se fait.
D'ailleurs, je crois justement que c'est quand on dit ça, je crois que c'est un responsable compétition. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est c'est le responsable recherche et développement. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est dans un secteur. C'est pas la tête qui dit on pense à revenir. C'est un mec qui dit oui, on continue de regarder. C'est pas parce que le responsable du service recherche et développement dit ça que Honda va vouloir revenir pour autant.
Messieurs, après les transferts, on va passer à un autre grand classique du SAV de l'actu. C'est les circuits, hein, avec un petit paquet de nouvelles, hein, qu'on a eu ces derniers temps. Ça, je m'en doutais qu'il allait faire ça.
I wanna be... ah bah non.
Donc New York, enfin le New Jersey, enfin le Grand Prix d'Amérique ou le Grand Prix du Jersey, ça dépend comment vous l'appelez ou
est-ce non, ça n'existe pas le Grand Prix du Jersey.
Si, ah, c'est des calendriers.
Mais on s'en fout, la FIA raconte des conneries.
C'est des cons.
Ah, je peux rien.
Enfin,
on va quand même pas vous l'apprendre.
Au bord de l'Hudson, hein, et à côté de Manhattan, voilà, c'est neutre, hein. Et donc reporté officiellement à 2014. On dit non, on sait qu'il est triste. Bon.
Non, je suis content. L'objectif, c'est de réussir à faire. Ils veulent faire un beau Grand Prix et là, ils disent voilà, on n'aura pas le temps de tout faire. Là, il y a l'hiver, il y a encore des travaux de voirie à faire et compagnie. Ils n'ont pas le temps. Donc, bah voilà, c'est reculer pour mieux. Enfin, voilà, c'est mieux sauter. Pour, non.
T'aurais pas dû dire ça.
T'as pas retrouvé notre.
J'étais mal parlé. Mais c'est voilà, c'est prévoir, c'est prendre son temps pour organiser quelque chose de bien en 2014. C'est ça évitera de voir quelque chose comme la Corée qui est ouais, pas fini, voilà. Fini ni à faire d'ailleurs.
Donc ça laisse une place libre sur le calendrier, même si dernier a dit que bon ben vu ce qui s'était passé justement, il y aurait que 19 courses l'an prochain. Il y a un créneau et il y a allez on va dire trois projets dont on parle, trois possibilités. Et forcément on aurait entendu parler du Grand Prix de France.
Enfin, du Grand Prix, d'un Grand Prix au Castellet.
Oui.
Ah, oui, voilà.
C'est pas sûr que si jamais le Castellet revenait l'année prochaine, ce soit sous le nom de Grand Prix de France.
Sinon, il y a Istanbul.
Ah. Qui est... Ouais.
On sait bien. Que le circuit intéresserait Bernie.
Il intéresserait les fans de F1 aussi.
Oui. Et troisième cas, donc, le Qatar, hein, qui est candidat pour les essais privés l'an prochain, dans l'optique. Dans l'optique pour.
Ah.
Le forfait à dixième de seconde.
Le forfait 0,5G.
Ce qui m'inquiète, c'est que c'est encore son fou. Mais arrête de faire cuire des trucs,
fini.
Il fait des lasagnes.
Eh, hey, mais je suis vert ce soir, moi.
C'était ton four?
Je sais pas, j'ai jamais de soucis pendant les SAV. Donc je répète ma phrase.
Oui,
dans l'optique d'un Grand Prix de F1 au Qatar.
C'était sûr ouais. De ça.
Ouais, mais je l'ai quand même dit deux fois, ça a coupé deux fois, donc
Je peux dire que là, pour la troisième fois, il a serré les fesses, en se disant, pouf, ça passe.
Il tenait son PC comme ça.
Donc oui,
Le Qatar.
Un Grand Prix du Qatar, ouais, bravo.
Un troisième Grand Prix au Moyen-Orient, comme s'il n'y en avait pas déjà trop.
Et nocturne, j'imagine.
Ils ont pas dit.
Parce qu'ils le font comme ça, au MotoGP.
C'est bah, MotoGP, ouais.
Faut voir le
c'est ce qui serait le plus logique, théoriquement.
Oui. Ouais.
Voir le tracé, je le connais pas bien.
C'est un pur tracé de moto. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que s'il devait y avoir un Grand Prix au Qatar, c'est un circuit qui est sympa, mais pour des essais, ça peut être sympa, même si j'y crois pas parce que il y a aucune référence pour les équipes et compagnie. Dit, hein. Et même s'il fait beau, il y a vraiment il y a aucune raison d'y aller. On se rappelle au Bahreïn, il a fallu quand même quelques années pour aller au Bahreïn.
Oui.
Et c'est vrai que sincèrement, le circuit du Qatar pour une course de Formule 1, j'ai un peu peur qu'on s'y fasse chier en fait.
Mais bon, on sait que ça arrêtera pas Bernice, hein.
Ah non, mais ça, oui.
Pour vous, le plus probable, c'est qu'on reste à 19 ou qu'ils choisissent quand même un de ces circuits, voire un autre.
Oui, on va rester à 19 parce ouais, que le Grand Prix de France, le dossier est vraiment pas prêt. Le Qatar, c'est plutôt pour 2014. Ils voudraient se préparer avec les essais en 2013. Mais les essais en 2013, il y a que 3 séances. Ça va vraiment être short et les écuries n'auront pas forcément envie de mettre l'argent sur la table pour emmener tout le matériel au Qatar et revenir juste pour 3 jours.
Le plus crédible, ça serait la Turquie.
Ouais, mais
peut-être. Ouais. Ouais.
Souci logistique après, si j'ai bien compris.
Oui, ça les embête d'aller jusqu'à Istanbul.
Ils font chier aussi. Et si on faisait un Grand Prix dans la maison de Bernie Ecclestone?
Elle est si grande que ça?
Ah bah ouais.
Ah bah Hervé Guémard n'a pas.
Hervé Guémard.
Voilà pour ça.
Sinon, projet sérieux, Bangkok en 2014.
Ah bah là, évidemment, c'est même plus que sérieux puisqu'ils annoncent une signature de contrat d'ici la fin de l'année. Même s'ils n'ont pas encore le lieu et
Red Bull n'aura pas eu l'Autriche, ils auront la Thaïlande. C'est presque ça en plus, hein. Ils ont fait, ils ont parlé en effet du fait.
Mais il pourrait aussi avoir New York, parce qu'apparemment Bernie Ecclestone voudrait que Red Bull serve de sponsor, enfin serve d'investisseur pour le Grand Prix de New York.
Ah.
Parce qu'ils ont notamment un club de foot, oui. les New York Red Bulls de Thierry Henry.
Enfin, avec
un Grand Prix dans la stratosphère.
Non, ça peut être sympa.
Red Bull, ils peuvent faire ça.
Tu montes les voitures à 40 000 km.
40 000 mètres, je te l'ai déjà dit. 40 000 km, c'est pas possible.
Et là, tu les lâches.
La première.
C'est le dernier coup sans parachute.
Et c'est une Red Bull qui gagne.
Et ça demande de l'aéro, tout ça. Hein.
Bah ouais. C'est pour ça que Caterham sera toujours pas dans les premiers.
Quoi. Ouais, du coup, pour 2014, il y a 19 promoteurs. Bon, allez, t'enlèves Monaco. Il y a une petite dizaine de promoteurs de circuits qui ont bien les miquettes de savoir si ils vont pas perdre leur place. Si le calendrier reste à 20 courses.
Oui, sur 2014, il y a 3 grands prix normalement.
Il y a donc il y aurait Bangkok, il y a la Russie qui rentre, il y a New York qui rentre.
Ah, la Russie.
Sochi.
Faut que ça se passe, hein. Pour Vitaly Petrov, faut que ça se passe. Parce que Oksana Kosachenko, qui est le manager de Vitaly Petrov, elle sait pas du tout ce qu'il va faire l'année prochaine, mais une chose est sûre, il sera au Grand Prix de Russie en 2014.
Mais il y sera!
Oui, tribune 1.
Il a déjà
bah, il a un billet, non?
Il y sera.
Tribune 1, place 4.
Allez, cinquième actu de la soirée. Et là encore, on va parler de 2013, mais aussi de 2014 et 2015. C'est donc l'information qu'on a eue du JDD, ce dimanche. Non, je me souviens plus si c'était ce dimanche ou le dimanche d'avant. Donc ça, c'est du conditionnel, hein. Faut rappeler, il y a rien eu d'officiel, ni de la FOM, ni de Canal+, hein. Ça pourrait donc être D8 qui remplacerait TF1 dès 2013. Et là, quand tu sais, tu fais, ouais, c'est chouette, c'est Canal et tout ça. Et là, tu te rappelles que Alexandre Delperrier travaille sur D8.
Alexandre, si tu nous écoutes.
Eh ben moi, j'ai regardé The Amazing Race hier.
Oui.
Et il était pas mal, je trouve, dedans.
Oui, mais
ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
C'est comme dire Denis Brognard, il est super dans
le coup. Oui, non mais, c'est justement, c'est ça. C'est... Tout le monde s'excite en disant, ah ouais, il va commenter les Grands Prix. Mais rien dit qu'il va les commenter. Déjà, rien ne dit que ça va être sur D8.
Oui.
Oui. Rien ne dit. Les gens sont déjà en train de discréditer le fait que ça passe sur D8 en disant, ah ouais, non, mais
il y aura le film Delperrier. Pour l'instant, c'est de la supposition.
On sait strictement rien, quoi.
Dans le pire des cas, on est dans le possible, dans le meilleur, on est dans le probable.
C'est une info JDD. Ils disent, c'est eux qui disent ça. Alors après, est-ce qu'ils disent parce qu'ils ont vraiment des infos en interne ou parce que c'est vraiment ils supputent, ça reste à voir. Mais en tout cas,
leur petit doigt qui est
non, mais je crois que c'est toi qui as fait l'article. T'as tout mis au conditionnel. Enfin voilà.
Oui.
T'as pris les précautions d'usage. C'est pas parce que c'est le JDD. C'est bien évidemment, c'est le JDD. C'est comme la BBC, dès qu'ils lancent une rumeur, on a tendance à vouloir la véhiculer parce que ça reste quand même des organes relativement fiables. Mais ça reste quand même aujourd'hui à l'état de quelque chose qui n'est pas confirmé. Et les gens sont déjà en train de se dire, ah là là, dis donc, et si Delperrier, mais non, mais attends, tu sais même pas comment ça va être diffusé, sur quoi, est-ce qu'il y aura la HD, il y a peut-être d'autres trucs avant de se préoccuper que de savoir si c'est Delperrier. Surtout que ça se trouve, Delperrier sera peut-être engagé pour juste faire les plateaux, ce que fait Brognard. Donc, voilà.
Ouais, enfin, si la Formule 1 arrive sur D8, il y a quand même Delperrier qui a été commentateur, qui a une légitimité.
Oui.
Tu peux pas le nier.
Bon, après il prend de la Red Bull en intraveineuse, mais ça, c'est un autre problème.
Après, même sur ça, je suis pas forcément convaincu parce que faut se rappeler qu'il a commenté, certes, mais à la radio.
À la radio, oui, c'est totalement.
À la radio, t'es forcé aussi. Enfin, quand tu as un match de foot qui est commenté à la radio, un match de foot qui est commenté à la télé, c'est pas pareil. Bon, même si Delperrier, quand il commence le match de foot,
quand il commente le match de foot à la télé, c'est à la télé, et il commente de la même façon.
Mais encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire que t'as d'un côté, il y a le fait de commenter à la radio qui te nécessite à donner de l'énergie parce que il y a pas l'image.
Oui.
Donc à la télé, il y aura l'image, donc il pourra peut-être pas forcément autant. Sur le long terme, et puis le foot, c'est quand même un sport qui est plus dynamique, où il y a plus d'action, sincèrement, que la F1 quand même. Donc,
c'est drôle parce que vous rendez compte,
sauf les matchs de l'équipe
de France. Il essaie de nous expliquer, il essaie de se convaincre que Delperrier, en gros, il nous explique qu'il commente toujours de la même façon, que c'est son style, mais que peut-être là, exceptionnellement pour la F1, il ne fera pas de la même façon.
Non, je suis pas en train de laisser me convaincre, je suis en train de dire, on l'a jamais vu commenter un Grand Prix de Formule 1 à la télévision. On ne sait pas du tout comment il sera, on ne sait pas du tout même s'il sera accompagné, donc voilà, on est déjà en train de faire des suppositions.
Il y a peu de chances qu'il soit tout seul, sauf
sur ce qui reste quand même malgré tout des points de détail. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, c'est les questions primordiales, c'est la question de la pub, la question de quelles séances seront diffusées, tout sera sur D8 ou est-ce qu'il y aura certains grands prix sur D8 et certains grands prix sur Canal+, etc. C'est ça qui devrait être l'essence même, où pour le moment on n'a aucune information.
Est-ce qu'il y aura de la pub sur D8? Oui, hein, ça faut pas se...
Ah, ça c'est clair,
plus que probable,
mais plus ou moins.
Oh bah, ça, à mon avis, plus, ça c'est pareil, pas possible, hein.
Plus c'est bah, plus c'est plus réglementé de toute façon.
Oui,
ça
voilà.
Risque. Ah, oui, je crois que c'est 12 minutes par heure, un truc comme ça.
Enfin, oh, c'est même beaucoup, 12. C'est, je crois que c'est 8 ou 9. Ouais.
Oui.
Ah ouais, c'est... mais je me demande s'ils n'avaient pas été modifiés justement. Enfin bon.
Il y a peut-être, peut-être en heure de pointe, il y a plus parce que quand tu regardes.
Ah, mais après, il y a des questions d'heures flottantes en plus qui fait qu'ils peuvent parfois en caser plus à certains moments et moins justement.
Oui, genre avant le JT.
Voilà.
Non, mais effectivement, oui, c'est important de savoir. Parce que bon, c'est le groupe Canal qui rachète les droits. Après, ils les répartissent un peu comme ils veulent.
Est-ce que ça va...
Peut-être même que le CSA interdira que toute la saison soit sur D8 parce que concurrence déloyale par rapport aux autres chaînes d'utiliser des droits achetés sous un nom sur un canal gratuit quoi. En tout cas, oui, effectivement, c'est important que de savoir comment ça sera diffusé si Canal. Si Canal diffuse les trois quarts des courses,
Mais a priori, ça, ils ne peuvent... apparemment, à ce que j'avais compris, ils ne peuvent pas acheter des droits communs pour Canal+ et D8. S'ils achètent pour D8, c'est pour D8 et pas pour le crypté.
Oui, bah c'est dans la même logique, je crois. Oui.
Mais après, quand tu regardes le budget de D8, c'est 120 millions d'euros... Le budget de D8, c'est 120 millions d'euros annuels. Et TF1 paierait actuellement 40 millions annuels. Ça ferait plus du tiers du budget parce que apparemment ils ont fait une offre qui est supérieure à celle de TF1. De TF1. Donc ils consacreraient quoi, les 40% de leur budget à la F1.
Après la question c'est de savoir est-ce que est-ce que l'argent qu'ils dépensent dans les droits est considéré dans le budget ou pas. Hein.
Ça serait aussi en termes d'audience quand même pour D8
un gros coup.
Ah, une locomotive, oui, ça c'est clair.
Parce que même si c'est vrai que je crois que tu l'as dit en commentaire, Gus, il y a le réflexe touche numéro 1 sur la télécommande, mais ça n'empêche pas quand même que sur D8 ça attirerait facilement chaque week-end 2 voire 3 millions de téléspectateurs pour les grands prix vraiment les plus importants et les plus décisifs. Pour une chaîne qui aujourd'hui plafonne à 1 200 000, voilà.
Comme la plupart des chaînes de la TNT d'ailleurs, hein, c'est ce niveau-là. Hein. Oui.
Ah, ça serait vraiment.
Il faut voir aussi ce qu'il y a derrière comme couverture, quoi.
Oui, bah c'est ça. Après,
est-ce que c'est une couverture avec envoi de journalistes sur les circuits? Est-ce que c'est tout fait de France? On peut tout imaginer. Hein.
Est-ce qu'il y a une émission autour, qu'il y aurait des animateurs,
en effet,
des chroniqueurs, pourrait débattre,
une émission post-course, voilà.
Vérifiez vos boîtes mail chez D8.
Mais on sait quand c'est rendu public les décisions, non?
Oh, plus tard.
Ça, on ne sait pas. Le
17 mars 2013.
Oui.
Ah merde, c'est pas sur TF1. Attends, DirectV, c'est quelle chaîne?
Mais déjà, ça a pris beaucoup de temps, parce que l'appel d'offres, il a commencé début août. Les chaînes ont eu un mois pour y répondre. Le fait que ça fait déjà un bon mois et demi que c'est en cours de négociation, c'est long. Enfin, il y a des négociations pour des trucs à un prix beaucoup plus élevé que ça, qui durent moins longtemps.
Oui, puis en plus, enfin, apparemment, Bernier Clouseau, après les offres, s'est retourné vers TF1 pour leur demander s'il s'alignait sur l'offre D8. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que Bernier Clouseau, il a jamais rechigné à signer sur des entre guillemets petites chaînes pour les droits. On se rappelle en Angleterre, je sais plus sur quelle chaîne il était passé, qui était une chaîne de second plan entre guillemets de second plan.
ITV.
Non, mais il y a quelques années encore. Ah, oui. Non, mais encore avant.
Encore avant, c'est sur la BBC, je crois.
Oui.
Il y a pas une autre chaîne.
Non, ça a été très longtemps sur la BBC, puis pendant un moment ITV l'a eu, BBC l'a récupéré en entier avant que ça se répartisse entre BBC et Sky.
Bon, sinon il y a aussi en Espagne, je crois que
c'est la Sexta, ça, ouais.
Je pense qu'il ira surtout là où il est le pognon.
Sachant que là, si c'est D8, il a l'assurance d'être sur un canal, voilà, qui est gratuit et que toute la population reçoit. C'est vrai que notamment l'hypothèse, la réponse qu'il pourrait y avoir de TF1, c'est-à-dire faire un coup à l'anglaise ou à l'allemande, c'est-à-dire une partie sur TF1, l'autre partie a priori sur beIN Sport, les grands prix sur beIN Sport, forcément, ça sera pas la même audience.
Oui, mais en même temps, c'est pareil. beIN Sport, ils ont pas semblé intéressés. On a déjà plusieurs fois dit dans l'émission que de toute façon, à ces créneaux-là,
il y a déjà des trucs justement.
Et même s'il devait faire un truc, ça serait se répartir peut-être avec une autre chaîne, pourquoi pas M6, etc. Mais certainement pas avec beIN Sport, qui visiblement n'est pas intéressé par la Formule 1 dans l'immédiat.
Mm. Et puis attends, faut pas sous-estimer la volonté de Canal, qui c'est toujours plus ou moins intéressé au droit de la F1, hein, que ça soit par directement au début des années 90, à la fin des années 80, ou même au début des années 2000 avec Kiosque. Hein, c'est pas un intérêt soudain pour la discipline. C'est sûr que maintenant que l'offre sport a un peu diminué, ça peut être aussi un bon produit d'appel, surtout pour direct, enfin pour D8 quoi. Mais je pense que Canal sur ce coup-là a vraiment une réelle volonté, ce que TF1 et sans doute Bein encore moins ne semble pas avoir.
Après, et surtout tout à l'heure on parlait de budget, rien n'empêche Canal de se dire le budget, on n'achète pas les droits pour nous, on les achète pour D8. D'accord, on nous interdit d'acheter les droits nous en tant que Canal pour acheter D8, mais rien les empêche eux d'augmenter le budget de D8 de 48 millions, de 40 millions parce qu'ils sont propriétaires, pour que D8 puisse s'offrir les droits. Donc en dehors de ça.
Après, est-ce que la F1 rentre vraiment dans la cible de D8 ? Je sais que Canal, ils sont très CSP+, tout ça. Ce serait peut-être une autre cible qui serait complémentaire, mais c'est pas vraiment la cible que recherche D8, qui sont les gens, les cadres ou les gens qui ont des revenus assez confortables.
La cible des personnes de la F1 n'est pas forcément CSP+. Par contre, la cible des marques associé à la F1 et les sponsors ou les marques qui pourraient être intéressées pour faire de la pub pendant la F1, elle est CSP+.
Ouais.
Quant à DHL, UBS, Santander, Red Bull, tout ça c'est CSP+, c'est de la banque, c'est du truc énergisante, c'est pas du Swiffer qu'on voit comme pub pendant la F1.
Ah oui, bah c'est sûr, ce sera pas les managers de moins de 50 ans. Ouais.
Donc c'est là aussi c'est pour ça que Canal, et tu le disais, ils ont toujours eu l'œil un peu sur la F1. Parce que oui, ça cadre. L'AF1 et Canal+, oui, c'est pas choquant comme association.
Non, puis sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui D8 est dans la position de pouvoir dire ah ben non, nous on fait des programmes pour telle ou telle classe. Je pense qu'aujourd'hui leur but c'est d'être une chaîne généraliste, donc d'essayer d'attirer le plus de personnes possible. Certes, Canal+ c'est plutôt aujourd'hui.
Non mais c'est-à-dire des programmes que, c'est-à-dire Canal+, que c'est plutôt, quand ils disent oui, on veut être CSP+, c'est-à-dire en gros on va diffuser Game of Thrones, Amazing Race et pas les ch'tis à Hollywood. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire.
Mais oui, D8, ça fait un peu penser à la 5 il y a 20 ans. C'est un peu la même ambition. C'est l'ambition d'être une grande chaîne et compagnie, mais à la fois une grande chaîne en termes d'auditeurs, mais aussi en termes de contenu et de qualité. C'est un peu leur ambition. Et la 5 a eu la F1, donc pourquoi pas D8, quoi.
Oui, oui. Je voudrais rajouter Fab ou Marc.
Non, tout très complet.
À qui tu parlais quand tu disais Marc?
Oh.
Attends, on a un nouveau chroniqueur.
C'est fou.
Marc. Ça fait quand même 19 émissions qu'il n'est pas connecté, le mec. Hein. Va voir qu'on s'inquiète.
C'est fou. Hein.
Faites gaffe, en plus, on commence déjà à préparer 2013.
Attends, je sens le coup prêt tomber.
Ah bah déjà, Marc, il dégage. Ah, hein, oui. Il est jamais là.
Visible. Moi, je suis d'accord.
Shinji, il est là par intermittence.
Comme on fourmarre, je suis là.
Ouais, mais quand même.
Allez, messieurs, on va passer. Alors, déjà, au sondage d'il y a. Oh là, ça fait 3 semaines.
Oui, ça fait. C'est dingue, je trouve que les 3 dernières semaines ont été très riches en actu.
Elles ont été riches en actu, mais très pauvres en Grand Prix.
Oui. Mais, rappelez-vous, il y a 3 semaines, quand même, on venait d'apprendre donc, le transfert d'Hamilton
et
de Perez. Et on se demandait ce qu'allait faire Schumacher.
Oui. On n'en a pas parlé.
C'est vrai.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a des trucs. Moi, c'est en remontant dans les articles, je fais, ah oui, c'est vrai, merde. On n'a pas parlé de la retraite de Schumacher.
Quelle retraite? Il va faire du rodéo.
Non, je proteste, monsieur. J'estime que Schumacher a le droit de partir avec un minimum de dignité.
Oui.
Et toi, tu sors un article sur le rodéo où tu dis qu'il va pouvoir
mais il aime les chevaux. Quand il a interviewé Laurent Dupin, il était avec le Stetson et tout ça.
Non, j'ai dit, cet homme mérite un petit peu de dignité.
Mais c'est...
il doit déjà supporter une Mercedes et il mérite un peu de dignité.
Oh, écoute.
Et donc, il y a 3 semaines, on vous avait demandé quelle était l'actu dont tout le monde se fout. Hein. Donc, du 3 octobre, vous avez été 41 à voter. Merci à vous. En dernier, un vote. Kubica, pilote d'essai Pirelli. Comme quoi, c'est vraiment le passé, Kubica. Tout le monde s'en fout maintenant. 2 votes. Il y a des ex-échos.
Attends. Parce qu'il faut quand même comprendre le. Quand tu votes pour une actu, tout le monde s'en fout. C'est celle qui a le moins de votes, c'est la plus intéressante.
Bah oui.
Tu dis n'importe quoi. Je dis, heureusement que Fab est là pour voter. C'est peut-être toi qui vas dégager en 2015.
Tu dis vraiment n'importe quoi. Écoute.
C'est de la mauvaise foi. Non.
Tu viens de te prendre un four, mon petit gars.
Il a pas. Ah bah oui, justement.
Ça fait 3 quarts d'heure qu'il y pense. Ça fait 3 quarts d'heure qu'il est là. Il faut que je fasse une blague sur la
peau. J'ai quand même rajouté la petite musique, ça masque le blanc. Hein. Ça, c'est un...
Avec 2 votes, on a 2 ex-aequo. Pas d'aide d'État pour un Grand Prix de France. Et Mercedes tente une option pour mieux reconnaître leurs pilotes.
Ah oui, ouais, c'était très intéressant déjà.
C'était, voilà. 4 votes, Davide Valsecchi, champion GP2, le nouveau Giorgio Pantano.
Ah, j'ai voté pour ça. Je m'en fous de Valsecchi.
C'est vrai. Et
Ratia. 15 votes, parce que pour le coup, les deux premières se sont bien distinguées. 15 votes, D'Amata attaque le Gascogne. 36% quand même. Et donc 17 votes, hein, la géopolitique sino-japonaise, vous n'en avez rien à foutre puisque vous avez cité Makingua, ouais, victime collatérale du conflit des îles Senkaku.
Ça, c'est un scandale. C'est franchement scandaleux.
Il était pas là, Suzuka.
Vraiment atterré.
On va s'assurer en disant que c'est des gens qui ont voté avant d'écouter l'émission et qui après ont été pris de remords.
Ou des gens qui n'aiment pas l'éphéméride.
Peut-être, ouais.
C'est quoi le rapport là?
Bah, c'est un peu hors sujet à chaque fois.
Oui, non mais.
Ouh là là. Je sais pas si le soutien est parfois pas pire que la...
Je suis pas sûr que t'aies bien fait de sortir ça, Gus Gus.
Non, c'est bien, on peut s'en fermer sa gueule.
On va peut-être garder Marc, mais on va peut-être virer toi.
Non, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est les gens qui aiment pas l'éphéméride.
Il y a des gens qui n'aiment pas les
fumées. Je crois qu'on en a rencontré, oui.
Arrête, tu lui fermes deux oreilles. On a dit qu'on disait rien, tu dis. D'accord. D'accord, on reçoit des lettres de
menaces de mort.
Des menaces de mort, même de François Hollande qui nous a demandé s'il vous plaît arrêtez la crise, c'est à cause de l'éphéméride de Shinji. Mais on a dit qu'on comprenait que Shinji traversait une passe difficile à cause du four qui avait craqué, qu'on n'en parlait pas.
Visionnaire.
Bah oui, là. En même temps, on sortait bien qu'avec l'éphéméride, le four allait craquer. C'était logique. Tout est lié, Fab.
Et donc, les actus dont tout le monde se fout cette semaine.
Nous avons envie proposer le petit.
Nous avons une actu citée par Fab et Gus Gus. C'est Stewart qui estime que Vettel n'est pas un grand champion.
Oui, c'est quand même extraordinaire parce que même quand c'est Stewart qui donne une opinion, on a pu voir dans les commentaires les gens qui disaient genre « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait Stewart dans sa vie pour dire...
Comment te dire
J'ai envie de dire, alors 3 titres, enfin je sais pas, mais...
Mais pour eux, il a fait une écurie. Il a
gagné des courses.
Une écurie de course qui n'a pas du tout de succès en ce moment.
Après, enfin, on a peut vraiment pas avoir de réponse parce que même cette année il a eu une voiture qui était vraiment capable en tout cas sur la fin de se défendre.
Voilà. Non, plus de
toute façon, il enfonce une porte ouverte, enfin je suis désolé mais il y a aucun pilote aujourd'hui, tu peux dire que aucun pilote actuellement, j'ai entendu dire soit d'Alonso, d'Hamilton, de Vettel ou n'importe qui à part Schumacher, il y a aucun pilote dont on dit qu'il est un grand de l'histoire. Ça se dit a posteriori quand on fait le bilan de la carrière. On quand même pas commencé à dire à Vettel que c'est un grand d'histoire, mais... il en est au tout début de sa carrière quoi.
Ses critères lui qu'il faut qu'il ait réaliser des performances avec une voiture qui était moins bonne que les autres, ça laisse quand même assez peu de grands champions dans l'histoire.
Bah, en même temps, gagner avec une
Toro Rosso, Rosberg a été un grand champion. Alors, à ce
moment-là... Sinon, Dino, tu as cité Lewis Hamilton du Tweetgate au Bullinggate.
Ouais, parce que bon, c'est surtout dans le cadre d'une réflexion pas trop sur Lewis, même si je trouve qu'il donne un peu le bâton pour se faire battre. Mais surtout voilà, c'est sur ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va sans doute arrêter de tweeter et merde quoi, c'était tellement drôle ces tweets. Non, mais voilà, c'est toujours un peu dommage parce que c'est une remise en cause globale de la communication et de du monde moderne, je pense. Et tout va tellement vite qu'aujourd'hui, bah, dès que les pilotes disent le moindre truc, c'est interprété, surinterprété. On fait des articles et compagnie. Bon, nous aussi, on est dans ce processus-là. Et c'est toujours, voilà, c'était juste pour ça, c'est.
Sinon, Dino, tu as cité Abu Dhabi, la World Series by Renault en force, hein, représente et tout, pour les essais jeunes pilotes.
Bah oui, parce que pour le moment, sur les noms qu'on nous annonce, et puis sur les noms qu'on a pu voir, notamment à Manicourt et compagnie, force est quand même de constater que les pilotes les plus représentés sont ceux de la World Series by Renault, et pas ceux du GP2.
Oh. C'est étonnant.
Ce qui montre que ces dernières années, ouais, c'est ça qui est étonnant. Alors que c'est théoriquement le GP2 qui est le premier foyer. Il y a quelques années, oui, ils étaient rares, mais qui venaient de la World Series.
La World Series a quand même roulé plus proprement. Bon, à part ce qui s'est passé ce week-end et tout, bon, on va pas rentrer dans le...
Oui, mais là, il y a un titre, il faut bien comprendre.
Ah, ça, là, il y a le fan de Schumacher qui revient.
Oui, c'est clair.
Alors, un petit coup de volant de temps en temps.
Mais non, mais voilà, enfin, c'est aussi le signe qu'aujourd'hui, la World Series by Renault est de meilleure qualité que le GP2. Oh,
oui, c'est vrai. Sauf quand il rentre dans Bianchi.
Mais il défendait sa position.
Frintz.
Oui,
Frintz.
Robin, hein.
Hé, ou Batman.
Sinon, pour ma part, j'ai cité Maria de Villota, hein, parce que le pire, elle a dit, hein, le pire est désormais derrière moi. qu'elle a enfin parlé. Il y a même eu des photos dans le journal là où elle a parlé, et on voit qu'ils ont quand même fait un énorme boulot, parce que 140 points de suture.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans plus que cette déclaration, elle a eu des déclarations qui étaient intéressantes, notamment sur le fait que elle veut œuvrer avec la FIA pour que ça se reproduise plus. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est dans les photos, c'est que ça fait quand même quelques mois, elle a dit que elle avait eu du mal à s'habituer à son image et compagnie. Mais je trouve que médiatiquement, elle l'assure grave, quoi, et que ce qui fait, contrairement à ce qu'ont voulu faire certains sites et compagnie, elle aura plus jamais le même regard et compagnie. Mais en fait, je trouve que elle est plus belle encore qu'avant, parce qu'elle va au-delà de ça, quoi. C'est qu'elle assume, entre guillemets, ses cicatrices, elle assume son bandeau au point de prendre un bandeau qui est raccord avec la veste et tout. Enfin, voilà, je trouve que elle a changé aussi de coupe de cheveux. Bon, c'est sans doute lié aussi aux multiples opérations. Mmh. Voilà, c'est aussi pour les femmes, je pense aussi, ça peut être pour les femmes un grand encouragement aussi pour le physique et compagnie, quoi. C'est un vrai truc de féminisme, je trouve, indirectement. Enfin, je vais loin, mais je trouve que c'est un vrai truc de féminisme, quoi. Mmh. Elle revendique son bandeau, son cache-œil, qui est quand même le truc des pirates et compagnie, qui est pas du tout moderne, et elle arrive à l'afficher avec une modernité, et voilà, moi je trouve ça merveilleux, quoi.
Ouais, mais c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est pas un accident qui a mis seulement fin à sa carrière de pilote, c'est aussi un accident qui la touche dans sa chair très profondément, plus profondément que des blessures aux membres, quoi. Donc
140 points de suture au visage. Alors apparemment, elle a dit qu'elle avait encore des soucis par rapport au goût et à l'odorat.
Ouais.
Mais voilà, ça va beaucoup mieux. Et malgré ça, en effet, les photos sont magnifiques. C'est de belles photos. Mmh. Ça fait plaisir, après tout ce qu'elle a vécu, de la voir parler et d'aller beaucoup mieux. Sinon, autre actu, j'ai cité McLaren, qui déduit de ses impôts l'amende du Spygate.
Ah, j'ai oublié ça.
Alors c'est, comme d'ailleurs ça a été dit au contraire, c'est pas contre la F1, puisque la F1 elle a fait son boulot. Mais quel juge peut être assez con pour considérer que tricher, ça fait partie de l'activité normale d'une équipe de F1? Et donc tiens, on va leur exonérer d'impôts.
Qu'en dit le juriste de la bande?
Non, mais attends, non, mais c'est se servir des...
Vas-y, défends-toi, vas-y, défends-toi.
Écoutez, je suis sur le banc des accusés. Non, c'est servir des failles du droit pour mais j'ai même envie de dire c'est même pas une faille, c'est servir d'un point de règlement sur lequel il y a sans doute pas de texte, mais après faut pas non plus faire les effarouchés, dire après il y a les entreprises prévoient dans leur budget des parts entières qui servent dans les cas où elles se font prendre, où il y a des procès, parce que voilà, dire faut pas non plus McLaren c'est qu'un petit exemple de ce qui se fait à l'échelle mondiale dans les grandes entreprises qui prévoit, puis c'est aussi voilà, c'est aussi de la prévision, c'est prévoir qu'une partie de leur budget sera consacrée à la défense dans des procès, voilà, c'est faire face.
C'est pour ça que c'est
potentiel. C'est pas du tout la même chose, mais c'est comme quand il y avait eu la polémique par rapport, je sais plus à quelle entreprise, à La Poste ou EDF, hein, qui avait prévu une réunion de crise, en tout cas tout un cheminement, parce qu'ils avaient peur. Non, c'est Renault, voilà, c'est Renault qui avait prévu tout un cheminement. Au cas où les employés qui étaient accusés d'espionnage se suicident, et ils avaient prévu tout un... Alors c'est vrai que ça paraît cynique, ça l'est de toute façon, mais c'est aussi pragmatique, malheureusement. Alors après, on peut regretter le pragmatisme qui fait que ce genre de choses véhicule des valeurs un peu étranges, en tout cas. Mais voilà, c'est pas quelque chose... Moi, en tout cas, ça me choque pas du tout.
Mais moi j'ai envie de dire, ce que McLaren, en soi, me choque pas. Au contraire même, ça m'aurait choqué, sachant qu'il y a cette faille-là, qu'ils ne le fassent pas. C'est du pur professionnalisme que de dire on peut se faire dédommager, se faire avoir une réduction sur nos impôts grâce à ça, autant en profiter quand t'es patron d'entreprise ou quand tu travailles dans une entreprise. C'est avant tout à ton entreprise que tu penses. À un moment donné, comme tu dis, effectivement, il faut aussi sortir de ses œillères. Et dans une entreprise, son but du jeu, c'est aussi de faire du pognon, c'est aussi de faire d'éviter les dépenses et les frais. Et effectivement, c'est que quand ils se font avoir pour une tricherie ou pour des malversations, c'est d'essayer de récupérer ce qui est récupérable. Donc moi, sincèrement, chez McLaren, j'ai rien à reprocher à McLaren. Ils ont fait leur boulot. Ça véhicule une image du sport qui est pas très nette, mais là, c'est pas le volet sportif, c'est le volet économique. Donc, c'est vraiment l'aspect entreprise. Ce qui est incroyable, c'est la loi. Enfin, c'est l'absence de loi. C'est le fait que t'aies un juge.
Enfin, c'est une loi sur le fiscal, en fait, qui permet aux entreprises de récupérer une partie. Il y a un truc, en fait, parce qu'ils sont basés sur quelque chose, pour demander ça.
Mais ce qui est indécent, c'est surtout dans cette période de crise qui touche aussi la Grande-Bretagne, ce qui est indécent, c'est de voir que c'est le contribuable qui va payer pour une erreur une tricherie de la part de McLaren. Mais en même temps, ça fait des années, depuis 2008, on paye pour les banques, on paye pour tout ci, tout ça, on leur donne de l'argent que derrière, de toute façon, ils vont redistribuer en bonus et compagnie, où ils vont organiser des séminaires et compagnie. Donc, on ne devrait pas être étonné. C'est comme ça que fonctionne le monde depuis plusieurs années. Et que McLaren est une entreprise qui fonctionne comme des banques américaines et compagnie qui ont distribué des plus-values alors qu'ils se sont fait renflouer par l'État l'année d'avant, quoi. Donc,
Gus Gus, quant à toi, tu nous as cité la lutte pour le titre. Ferrari prépare un gros package pour l'Inde et pas de consigne chez Red Bull. C'est très fourre-tout.
Bah oui, bah parce qu'on n'a pas parlé de 2012 finalement, alors que oui, se prépare une grosse
on
lutte.
On s'en fout
pour...
de 2012.
C'est le SAV du futur.
C'est vrai. Alors que se prépare une grosse lutte pour le championnat. Apparemment, Ferrari est prête à se mettre au niveau de la Red Bull ou en tout cas à faire des gros efforts de développement. Ils apportent un gros package avec des ailerons avant-arrière, des échappements justement inspirés de Red Bull et peut-être même un diffuseur et un double DRS nouveau. Donc j'aurais bien voulu qu'on en parle un petit peu. Moi, je le fais là. Et...
Mais justement, j'ai une question là. On parle d'échappement en Red Bull. Ils ont quoi de spécifique les échappements en Red Bull?
Bah, il y a tout le système de double canalisation qui passe sous l'endroit où sortent les échappements, qui font que ça améliore le rendement du diffuseur par rapport à des échappements classiques comme ceux de McLaren ou de Ferrari.
Parce que fondamentalement, leurs échappements, pour ce qui est de l'échappement, de la sortie d'échappement, ça fonctionne comme sur les autres.
Oui, enfin, c'est la même
sur
chose.
McLaren.
Ça scelle le diffuseur avec l'effet Coanda.
D'accord.
Et pas consigne sur Red Bull?
Bah, ça faisait pas. c'est rigolo, quoi.
Non, pour le moment, chez Red Bull, c'est pas Marc qui disent Sébastien est trop rapide. C'est à Vettel, ils disent t'es trop rapide. Arrête. Sébastien, you are faster.
Sébastien, the car is is much faster than you.
Sinon, Gus Gus, tu as cité l'enlèvement de Kimi Raikkonen.
Aïe. J'ai été choqué.
C'est une belle vidéo. Franchement, le coup marketing est classe.
Alors, le coup marketing est très joli. Ça a bien fait rigoler tout le monde. Mais moi, ça m'a pas fait rigoler. Et donc, je voudrais lancer un appel en mon nom propre aux principaux concurrents de FanF1, parce que franchement ça peut plus durer. J'ai envie de les supplier de faire correctement un travail journalistique de base qui consiste à vérifier, à recouper une information, et ce qui en plus est de plus en plus facile avec internet et la somme d'informations qui est à notre disposition dans notre monde moderne, quoi. Y a rien de plus insupportable que de penser qu'il y a des sites concurrents qui publient des infos qui sont complètement fausses, du genre Kimi Raikkonen vient de signer avec un nouveau sponsor, ce qui n'est pas vrai parce que c'est pas un nouveau sponsor et c'est une vidéo de promotion comme l'a très bien écrit Dino dans l'article. C'est une vidéo de promotion de la nouvelle marque de la nouvelle ligne de vêtements Makia Racing que vient de lancer Makia et dont Kimi Raikkonen est l'égérie, quoi, le modèle. Dans le même style, pendant ces trois semaines, on a eu justement cette info sur Massa qui a testé des nouvelles pièces sur la Ferrari en vue de l'Inde. Là, c'est les sites anglais ont mal traduit 20 minutes le 20 minutes espagnol et ont tout de suite subodoré que les échappements de la Ferrari de Massa en Corée étaient ceux qui allaient être en Inde. C'est absolument faux. Il suffit de se voir les photos pour s'en convaincre. Et malgré ça, malgré une simple vérification qui aurait pu être faite facilement, on se retrouve avec des infos fausses dans la presse. Et moi, ça m'embête parce que y a une responsabilité quand on est rédacteur. Moi, je suis pas rédacteur plus longtemps, mais pourtant, ça m'empêche pas de me poser des questions avant de cliquer sur le bouton publier. C'est la base du journalisme, le degré zéro, de publier des informations correctes pour bien informer les lecteurs, parce qu'il faut pas oublier que quand on appuie sur publier, il y a des gens qui lisent ce qu'on écrit et qui du coup assimilent une information et en parlent autour d'eux, ce qui fait que parfois des informations fausses se répandent. Et ça, je trouve ça très dommageable, parce que c'est quelque chose de simple qui pourrait empêcher que des informations fausses se publient comme ça sur internet.
Vous avez compris les mecs, alors maintenant fais gaffe.
On arrête l'information à la chaîne, hein. On fait du vrai.
Alors le coup de Macchia Racing, ça a troublé les gens parce qu'il y avait la notion de Macchia Racing. Ah. Alors les gens se sont dit, oh, qu'est-ce qu'il nous a inventé? Mmh. Donc peut-être qu'il y avait eu une écurie de rallye ou je sais pas quoi. Non, non, c'est une gamme de vêtements. Il suffit juste d'aller sur le site de Macchia Clothing.
Voilà, c'est...
Mais là encore une fois, c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens se sont jetés sur le site de Macchia Clothing qui a planté. Et donc bah tout simplement, quand vous êtes là et que vous voulez savoir ce que c'est Macchia Clothing, moi je me suis retrouvé face au problème. Vous allez sur le site ne fonctionne pas. Bon bah qu'est-ce que vous faites? Vous validez l'article ou vous attendez? Bah vaut mieux attendre parce que du coup, vaut mieux avoir l'occasion de voir ce qu'il y a sur le site, d'aller sur la page Facebook. Moi je suis tout simplement allé sur la page Facebook de Macchia Clothing. J'ai été voir, il y avait le panneau de la page internet où on voyait les photos, où on comprenait bien que c'était une gamme de vêtements. Donc voilà, à partir de là, il n'y a rien d'autre à chercher. Il faut aussi savoir à un moment donné quand attendre l'information. Je pense qu'il y en a certains de nos concurrents qui sont allés sur les sites en disant on va voir ce que c'est Macchia Clothing. Mais comme ils sont tombés sur un site qui était en rade, eh ben ils ont continué à faire leur article. Non, tu t'arrêtes, t'attends que le site revienne ou tu vas chercher un autre moyen d'avoir accès au site. Mais tu voilà, t'es parti sur l'information, continue de creuser dans cette direction-là. Voilà, ils sont rhabillés pour l'hiver.
A publié un livre, hein, le journalisme en 10 leçons.
Mais c'est non, mais en plus c'est même pas du journaliste. C'est je pense que on est avant tout nous aussi des lecteurs. On est frustré aussi de en tant que lecteur. Moi ça me frustre en tant que lecteur. Ouais, ouais. Et si j'ai décidé d'être rédacteur sur un site de Formule 1, si j'ai décidé de créer un podcast, c'est parce qu'il y avait strictement rien qui me convenait véritablement et qui correspondait à mes attentes.
C'est presque un pari qu'on fait. C'est le pari de la qualité. C'est assez malheureux parce que c'est vrai que tu regardes les autres les sites concurrents, c'est des articles très courts pour dire pas grand chose, parfois qui se multiplient à l'infini. Fini sur certains sites. Nous, c'est vrai que nous on fait le pari de l'article.
Interview d'Alonso en 8 morceaux.
Ah bah allez, interview d'Alonso en 48 morceaux. Attends.
On en parle encore.
Même Larousse n'a pas osé.
Voilà, mais enfin, nous on fait le pari de l'article. Enfin, c'est presque ça. On fait le pari de l'article unique, avec les inconvénients que ça comporte aussi. On est bien conscient que c'est pas forcément le format toujours adapté aux médias qu'est Internet. Mais voilà, au moins on essaie de faire le travail le plus sérieusement possible avec les moyens qui nous sont donnés. Et c'est pas toujours facile parce que voilà, chacun a aussi ses propres avis sur la manière de traiter, mais en tout cas on fait ce pari là et je trouve que c'est dommage que ce soit pas quelque chose qui soit plus développé dans le petit monde de la Formule 1 sur Internet en France et plus globalement voilà sur Internet. Mais voilà, bah c'est dommage que ce soit un pari, mais en tout cas on espère que, puis les retours qu'on a prouvent que ça vous satisfait et je crois que c'est la plus belle récompense qu'on a pour notre travail.
Merci public.
Et puis il faut dire,
et on en profite comme d'habitude, on fait de temps en temps à saluer tous les rédacteurs. Donc bon, bah il y a Fab, Gus et moi, mais aussi Romain, Axel, Quentin,
Mathieu, Clément,
Thomas, voilà donc
Shinji quand même aussi.
Oh, une fois.
Oh, Shinji, t'as fait un article.
Ah oui,
c'était là. Oui. J'ai dit sur FanF1, il a fait un article, il a monté une émission du SAV.
Oui.
De sinistre mémoire. Pardon. Pardon, j'ai dit.
Messieurs, reprenons le cours de l'émission. Et, comme d'habitude, la question habituelle, je me répète, quelle est l'actu dont vous foutez? Est-ce que vous voulez que je vous les redonne, peut-être?
Oui.
Donc il y avait Stewart estime que Vettel n'est pas un grand champion, Lewis Hamilton du Tweetgate au Bullinggate, Abu Dhabi la World Series by Renault en force pour les essais jeunes pilotes, Maria de Villota le pire est désormais derrière moi, McLaren déduit de ses impôts l'amende du Spygate, la lutte pour le titre, Ferrari prépare un gros package pour l'Inde, pas de consignes chez Red Bull, et Kimi Raikkonen kidnappé et le traitement médiatique de l'information, de cette information.
Le Bullinggate.
Oh, c'est
moi je dirais le...
Non, je peux pas.
Le package Ferrari, moi, je dirais.
Moi aussi, lutte pour le titre, c'est très fourre-tout, quand même.
Ouais, je suis très fourre-tout.
Cette semaine, vous voulez proposer quel sondage?
Oh, l'actu intéressante.
Ouais. Donc cette semaine, on va vous poser quelle est l'actu la plus importante hein, de ce SAV. Vous aurez le choix entre Felipe Massa reste chez Ferrari en 2013, le point transfert, hein, donc actu avenir flou chez Williams, chez Force India, la question de chez Sauber, Vettel chez Ferrari en 2014, McLaren face au choix du motoriste, Honda, Porsche, Mercedes, un point circuit, hein, donc New York reporté à 2014, Bangkok en 2014, et pourquoi pas hein, des circuits pour remplacer New York l'an prochain, et D8 à la place de TF1 en 2013.
À noter, Shinji, que concernant les pilotes, on avait proposé un sondage sur Kobayashi. Comprendriez-vous que Sauber ne conserve pas Kobayashi en 2013? Il y avait eu 188 votes, deux personnes qui ne se prononçaient pas pour 1,08%,
77 votes pour le oui. Il comprendrait donc que Kamui Kobayashi ne reste pas chez Sober. 40,96%. Et 57,98%. 109 votes pour le non. Donc, globalement, on a vraiment l'impression que les gens veulent que Kobayashi reste.
Non, mais je suis étonné. Je pensais que ce serait plus, tu vois.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté non, au sens où peut-être qu'ils pourraient aller ailleurs. Peut-être qu'ils pourraient, aller dans une autre équipe. Si je pense que si on avait mis Kobayashi reste en Formule 1, là, je pense qu'effectivement, le score aurait été supérieur.
Pas faux.
Peut-être que tous les fans de Kobayashi ont dit non, on veut pas qu'il reste chez Sauber.
Ils ont changé d'IP toutes les 5 minutes pour voter.
Le problème, c'est que là, Sauber, c'est le meilleur baquet. Hein, donc...
Bah oui. Mais si on va passer aux citations, moi j'en ai une.
Oui, moi aussi.
Moi j'en ai une.
J'en ai deux.
Oh là, t'as gagné.
Ah bah tu passeras en dernier.
Bah non, vous allez tous me les prendre.
Justement, c'est qui est plus drôle.
Poiré. Ah, vas-y, Shinji, commence. Allez.
Les nouveaux venus seront peut-être un peu surpris au début, mais cela passera rapidement. Puisque, en effet, Monisha Kaltenborn, ça y est, hein, ça avait été annoncé l'an dernier, je crois, hein. Eh ben, c'est fait, c'est elle, la patronne chez Sauber.
Ouais, officiel.
C'est officiel. Première femme à diriger une équipe de Formule 1.
Alors moi, ça serait une citation de Jenson Button.
Oh, faut arrêter.
Oh non.
Ah, bon, ça va.
Oh putain.
Désolé, les mecs. Qui déclarait, j'aime également les sombreros.
Ah non, ça va.
Et moi, c'est important.
Ah ouais.
Lorsque Martin Whitmarsh m'a dit que Perez venait, ça m'a fait sourire parce que j'adore les margaritas et les sombreros. Et là, attention. Là, Jenson Button prend un gros risque en ajoutant, il y a une bonne photo de moi quelque part portant un sombrero et pas grand chose d'autre.
Il faut aller fouiller. Hein.
Donc, mesdames, ladies, we are searching the photo of Jenson Button where he is and only a sombrero and nothing else in the body. It's for a French website where
you
have some exclusivity, you know, button naked. It would be very good for the référencement of the site. So please email this to contact@fanf1.com.
Le plan pour conquérir la Grande-Bretagne est quand même sur de bonnes voies. Je constate.
Et puis si vous voulez donner des leçons d'anglais à Dino, écrivez-nous aussi.
Please.
Wow. Eh bien,
Obladi oblada.
Non mais sincèrement, c'est dangereux ce qu'il fait Button, parce que maintenant tous les journalistes du monde entier vont chercher cette photo où il ne porte qu'un sombrero.
On peut imaginer que c'est peut-être Jessica qui l'a.
Ouais, ah ça se trouve elle est sur la photo.
C'est la même photo où Lewis était en combinaison de cuir peut-être.
Pitié, envoyez-nous cette photo. Bon bah du coup c'est la soirée des citations de Jenson Button, puisque moi aussi c'est une citation de lui. Il dit « L'ambiance est fantastique dans l'écurie. » Alors, moi, je veux bien que l'ambiance ça soit bonne chez McLaren. Peut-être d'un seul côté du garage, parce qu'à l'heure qu'il est, Hamilton, il doit toujours être au bowling en train d'attendre ses mécanos. Mais de là à parler d'ambiance fantastique, c'est un peu de la belle langue de bois. À moins qu'ils soient tous en train de fêter le départ d'Hamilton ensemble, alors je sais pas...
Mais... Mais ils l'ont fêté hier, apparemment.
Oui, il y a eu.
Ah, déjà?
Ouais, ça m'a étonné. Le mec, il a fait son pot de départ. Il est très grand prix. Alors...
Ouais, s'il faut rien, on sait pourquoi.
Ils sont cassés, tout ça.
Je pense que ça y est, ils ont renoncé au titre et tout, et voilà.
Ah bon? Ils auraient renoncé au titre?
Ah ouais, il y a eu réunion devant tout le personnel.
Ouais, ils ont même acheté les vêtements d'hiver pour les voitures et tout. Et moi, ma citation, c'est une citation de Lewis Hamilton. La transition est très belle, puisqu'il dit « Je pense que je suis aimé autant que j'aime l'équipe. Ah. » Alors ça, je veux dire, on peut l'interpréter dans tous les sens.
Mais c'est ça qui est terrible.
Et le pire, c'est que je pense qu'on l'interprétera surtout dans un sens.
quel formidable communicant, quand même.
Oui.
C'est vrai qu'il va quand même falloir faire quelque chose.
Mais c'est ça qui est terrible, Hamilton, c'est qu'il passe son temps à allumer des incendies, volontairement ou involontairement, et à essayer de les éteindre en rallumant d'autres.
Le pompier pyromane.
C'est, ouais... C'est même un pyromane, Hamilton.
J'avais aussi noté sur Button, il a également dit qu'il imaginait son arrivée chez Ferrari.
Oui, d'ailleurs, il adore les spaghettis. Voilà.
Et il imaginait son c'est pour donner un peu une idée de comment il perçoit Fernando Alonso. Il imaginait son arrivée chez Ferrari avec Fernando Alonso qui ferait des blagues en italien pour pas qu'il les comprenne.
Mais je pense que Button, sincèrement, il est plus cassant qu'on ne croit. Hein. Il est en général, il sort des trucs. Des fois, c'est quand même c'est des petits.
Mais c'est
bombes.
Le faux gendre idéal.
Oui, il est. Je pense que ce qui fait beaucoup, c'est qu'il est entouré par Hamilton. Enfin, il y a Hamilton à côté de lui, donc l'autre, il prend toute l'attention. Il passe tout de suite pour quelqu'un de gentil, mais il a ce côté aussi un petit peu casse. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kobayashi ouais. M'a envoyé un tweet. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est sympa quoi comme truc. Quoi. Mais moi, j'ai une question parce que vous vous rappelez de cette pub pour un jeu de Formule 1 où il y avait un homme qui se levait nu et on voyait ses fesses. J'ai toujours pensé que c'était Button.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Mais je sais pas. J'ai trouvé que c'était lui.
Tu as reconnu les fesses de Button?
J'ai toujours pensé que c'est... Attention, tu déformes mes propos. Chers auditeurs, ne croyez pas ce qu'il vient de se dire.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te fait penser que c'est les fesses de Button?
Il a reconnu les couilles qui pendent.
Non, mais je sais pas, vous souvenez de cette pub quand même?
Pas du tout.
Oh, mais si!
Ça me dit vaguement quelque chose, mais ça devait passer tard.
En fait, c'est. C'était sur XXL, merde, démasqué. Non, mais c'était pour un jeu, ça devait être Formula One Championship, quelque chose comme ça. Et c'était. Voilà, t'avais des images de la Formule 1, et puis t'as une fille qui parle à la fin, machin, et dit c'est pour ces sensations-là qu'il joue, et hop, tu vois le mec qui se lève à poil. Parce qu'il est content. Et moi, je me suis dit, mais c'est Button. Non, mais je vous raconte ta vie. Mais,
je sais pas où est-ce qu'il a vu cette pub.
Ah non, mais attends, ça c'est... Non. Parce que je veux pas qu'on...
Qu'est-ce qu'il veut dire que c'est Button? Je sais qu'il était content sur les fesses, d'accord.
Moi, quand je suis content, je me lève pas à poil. Enfin, je sais pas, mais...
Ah oui, mais...
Non, mais moi, sincèrement, j'insiste. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est Button?
Non, mais sérieusement. Je me suis toujours dit, ce mec-là ressemble à Button. Non, mais tu sais, c'est le ressenti. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Évidemment.
C'est ton ressenti.
Mais si je vous dis que je l'ai vu, cette photo à poil avec le sombrero.
C'est toi qui l'as prise lors d'une soirée, non?
Une soirée, là.
Ah putain, j'ai jamais retrouvé ça.
On a fait une soirée fin 2012.
Il va chercher maintenant.
Mon défi, ça sera de la retrouver. Je la mettrai en commentaire si je la retrouve. Mais s'il y a des auditeurs qui reconnaissent cette pub, qui le disent, parce que je me sens seul.
Fais du bien.
Voilà. Voilà, un lien, des photos.
Là, t'es seul.
Mais non! En plus, ça allait passer plein de fois, cette pub. C'était fantastique.
Non, mais encore la pub, qu'elle existe, c'est pas le problème. Mais
écoute,
ce problème,
c'est le moment où tu la verras. T'essaieras de te départir de tes a priori et tu regarderas. Et ce mec ressemble un peu à Button.
Non mais attends, non mais sincèrement, tu as regardé la pub, t'étais là devant la pub, parce que je vois, je visualise à la scène. T'étais là devant la pub, tu vois le mec se lever à poil, et là tu dis, ah, ça ressemble à Button.
Bah non mais je me dis, c'est le morphotype.
Mais on le voit d'où à où?
Ah bah on voit... Mais c'est quoi ces questions?
Non, mais c'est-à-dire que... On
ne connaît pas la pub par cœur.
Non mais tu vas avoir droit à tomber tes yeux, c'est pas grave.
Non mais bon, visiblement, pas ça, visiblement
tu, vois, tu ne connais pas la pub par cœur, mais visiblement tu connais bien Johnson Button. Apparemment, c'est pas la technique qui t'intéresse chez McLaren. Bûcheur,
c'est
méfie-toi.
C'est le moulage des baquets, moi.
Dino, passons au répondeur, parce qu'il faut qu'on avance.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors, justement, dans le répondeur, nous avons plein de questions, surtout débat cette semaine. Nous avons une première question. Alors, que je la retrouve.
Rassure-moi, il y a aussi des hauts.
Oh, mon Dieu.
Messieurs, bonsoir. C'est tout pour moi.
Nous avons une question de Michael. Bonjour le SAV Life. Je ne sais pas qui seront les chroniqueurs cette semaine, mais j'aimerais savoir comment est-ce que Fab a pu reconnaître les
fesses. Très au fait, cet auditeur, mine de rien.
Hey, Michael est de retour.
Arrête, Marc. Gus.
J'essaye d'avoir mon bédier aussi.
Ouais, mais là, c'est Marc. On va dire que les mauvaises blagues, c'est Marc.
Alors, messieurs, nous avons une question de Adelin qui nous pose donc la question suivante. Nous arrivons sur les circuits récents, Corée, Inde, Austin, qui sont pour la plupart issus de l'imagination d'Herman Tilke. Or, vous critiquez souvent ce dernier. Nous, pas du tout. Ma question est donc la suivante. Pourquoi tant de monde lui fait des reproches? Car personnellement, je ne trouve pas ces circuits si nuls que cela. Alors, Chenu, je te propose, c'est d'être l'arbitre d'un match des chroniqueurs. On va demander à Fab.
C'est vrai qu'on en a parlé.
De nous faire un match, chacun en prenant le pour ou le contre Herman Tilke.
Ah, pas mal.
Est-ce qu'il y en aurait un des deux messieurs qui serait tenté pour défendre Herman Tilke?
Ouais, allez. Ça me dérange pas. Ah, oula. Deux avocats.
Bon alors, est-ce qu'il y en a un qui serait prêt à l'attaquer?
Bon allez, je me sacrifie.
Donc alors Fab, tu vas être contre Armand Tilk, d'accord? Et Gus, tu vas être pour. Alors messieurs, nous vous laissons l'antenne. Voilà, vous écharpez-vous quoi. Voilà, Armand Tilk, que pensez-vous de ces cercles?
Mais moi je crois qu'on fait un faux procès à Armand Tilk, hein, c'est bien de lui qu'on parle et pas de RRR Tilk. Je crois qu'on lui fait un faux procès, un faux, peut-être je vais y arriver. Gus 3e. Je crois qu'on lui fait un faux procès parce que le moment où ces circuits sont arrivés dans le calendrier, ça a correspondu à un moment où la Formule 1 en elle-même n'était pas forcément très riche en spectacle, la domination de Schumacher et etc. Et que du coup, on a peut-être associé les deux pour critiquer ces circuits alors que c'était un tout.
Je crois que le problème de Herman Tilk, c'est de ne pas être assez proche, tout en, là on est d'accord, restant dans les limites, dans les cadres qui lui sont fixés, de ne pas être assez proche de ce que le public de la Formule 1 veut voir. La problématique, c'est pas tellement la manière, enfin tellement le circuit en lui-même, c'est la manière dont il est conçu. C'est Abu Dhabi, c'est la Corée, c'est enchaîner deux très longues lignes droites, par exemple. Où ça s'est vu ? C'est-à-dire, moi, je suis pas contre qu'il y ait deux grandes lignes droites dans un circuit. Il y a des circuits très anciens qui comptent deux lignes droites importantes, mais qui, malgré tout, ont une cohérence d'ensemble. Moi, ce que je reprocherais surtout à Tilk, au-delà du peu de spectacle, il n'est pas toujours responsable. Hein, je ne vais pas complètement l'attaquer là-dessus, il n'est pas toujours responsable de ça. Tu l'as dit clairement, il y a un tout. Mais c'est surtout voilà, de finalement pas saisir l'essence de la discipline, l'essence de ce qu'un spectateur a envie de voir, l'essence peut-être même de la Formule 1, l'essence de la course automobile et de faire des circuits qui n'ont pas de personnalité parce que ce picole finalement, il y a beaucoup de circuits qui se ressemblent chez Herman Tilke. Voilà, il y a ce côté un petit peu, comment dire, il y a ce côté voilà aseptisé, ce côté un peu lointain. Moi, je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux que ça. Il l'a fait d'ailleurs, il a fait de très bons circuits aussi, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que la plupart de ces circuits manquent d'un certain regard sur la discipline, à mon sens. Mais après, voilà, je pense que on peut faire des circuits avec peut-être un peu plus de personnalité. Je pense que Silverstone, c'est pas Tilke qui s'en est chargé de la réfection de Silverstone, et ça a été apprécié par la plupart des acteurs de la Formule 1. Donc, on pourrait peut-être, au-delà de ce monopole qui est quand même un petit peu inquiétant sur la discipline, peut-être essayer d'explorer d'autres pistes. Tilke a conçu sans doute, je sais pas, la moitié des circuits qui sont présents au calendrier. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait passer à quelqu'un d'autre pour avoir un regard neuf sur les impératifs que la Formule 1 oppose aux créateurs de circuits. Et voilà, pour peut-être sortir de cette aseptisation, de cette léthargie des circuits.
Alors Gus, qu'est-ce que tu répondrais à Fab ?
Mais c'est bien beau de donner la faute qu'à Tilke. Alors effectivement, t'as dit qu'il y avait que c'était un tout, mais est-ce qu'il subit pas aussi des pressions de la part de la FOM, de la part de la FIA, pour faire des circuits très sécurisés avec des dégagements? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu forcé par ça? Parce que ce qu'on lui reproche, c'est surtout ça, c'est de pas avoir de faire des circuits d'hommes qui mettent à l'épreuve les pilotes, et pour ça, il est obligé de mettre des dégagements ou des virages qui sont pas dangereux pour les pilotes. Moi, je pense personnellement que il ne fait que respecter les cahiers des charges qu'on lui transmet, et que malheureusement il peut pas aller contre. Je pense que qu'il est pas complètement responsable. Il est pas le principal responsable dans l'affaire.
Ah non, mais encore une fois, je prends acte avec toi du fait qu'il a des impératifs. Après, c'est pas tellement le fait qu'il ait des impératifs, moi, qui m'intéresse. C'est plutôt comment lui gère ces impératifs-là. Voilà, les zones de dégagement, les longues lignes droites, les virages pas dangereux. Aujourd'hui, n'importe qui, même si quelqu'un d'autre fait des circuits, il y sera confronté. Mais justement, je dirais peut-être, essayons. Parce que finalement, Tilke, ça fait le premier circuit qu'il a construit, je sais pas ce qu'elle c'est, ça doit être la Malaisie, je pense. Oui. En tout cas, ça fait bientôt 15 ans qu'il travaille sur des circuits de Formule 1. Il a un quasi-monopole sur la construction des nouveaux circuits de Formule 1. Très peu lui ont échappé. Moi aussi, ça m'interroge. Je veux dire, c'est pas tellement sur la conception des circuits, mais ça m'interroge. Pourquoi voilà, peut-être que, d'ailleurs, ça explique aussi, c'est peut-être qu'il est suffisamment docile pour que ça soit la personne à qui on confie les circuits selon les exigences. Moi, je dis, prenons des risques. Prenons des risques, pas pour la sécurité
sécurité des pilotes, ni pour la sécurité tout court, mais prenons des risques dans la conception des circuits. C'est tout simplement ça. Après, je veux dire, je vais pas tacler til que, il est aussi, voilà, il est le produit d'un système en Formule 1 qui fait que, mais voilà, moi j'ai envie de voir autre chose, de passer à autre chose. Il y a des circuits qui m'horripilent parce que c'est des circuits, il y a rien, quoi. Tu n'as pas d'identité, tu n'arrives pas à t'y raccrocher, et ça tombe souvent sur les circuits estampillés til que. Voilà, c'est tout ce que je reproche.
Gus Gus, quelque chose à répondre ?
Alors, je vais me coucher, moi.
Alors, chez G, tu as écouté les arguments des deux côtés. Si tu devais choisir pour ou contre Tilke, en fonction des arguments qui t'ont été donnés, est-ce que tu peux nous faire une synthèse et nous dire qui tu choisirais, toi ?
Oh là là, le suspense.
Moi, personnellement, je pencherais du côté de Fab. Mais après, j'étais déjà sur un a priori négatif. Je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas non plus le seul responsable. Ça, c'est sûr, je crois qu'on est tous d'accord. Maintenant, c'est vrai, comme a dit Fab, il y a ce qu'on lui demande de faire. Et là où, justement, on devrait avoir la patte de l'architecte, alors, il en a une, ça, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il a trop souvent la même. Et sans doute que si il est sans doute capable de se diversifier, il n'y a pas de raison. S'il était capable de nous proposer vraiment des choses différentes, je pense qu'on aurait une bien meilleure image de Tilke. Donc plutôt Fab. Donc en effet, qui du changement, ça serait bien, parce que c'est vrai que c'est quasiment tout le temps lui. Et toi, Dino ?
Moi, non, mais ce qui est terrible avec Tilke, c'est que on le juge en ayant en référence Spa, Suzuka et compagnie. Sincèrement, aujourd'hui, dans les Grands Prix, c'est vrai qu'il a le monopole. Maintenant, je suis pas non plus convaincu par les autres choses qui ont pu être faites. Et c'est vrai qu'il a, dans les deux camps, il y avait des arguments qui étaient assez intéressants.
On peut dire que ça ne fait pas tout, hein. Les deux derniers Grands Prix, il y a eu le Corée qui était Tilk, le Japon qui était pas Tilk, ça a donné deux courses ennuyeuses, hein.
Voilà, oh oui, donc, non mais voilà, c'est pas.
Moi personnellement, j'ai rien contre Tilke, on critique Tilke, pourquoi ? Parce que c'est, comme l'a dit Fab, c'est le seul de la F1, il y a personne d'autre. Maintenant, je suis pas convaincu que quelqu'un d'autre ferait beaucoup mieux, je suis pas dans cet esprit qui consiste à dire donnons ça à quelqu'un d'autre, ça sera mieux. Non, on n'en sait strictement rien. On peut pas savoir tant qu'on aura effectivement pas mis quelqu'un d'autre, et c'est ce qui peut-être handicape le plus Tilke et ce qui fait que la critique est le plus sévère entre lui, c'est que il y a personne d'autre, il y a pas de point de comparaison, donc on le compare par rapport à ce qu'on peut comparer, c'est-à-dire les mecs qu'ont fait Suzuka et compagnie, ouais, enfin ils ont fait Suzuka il y a une paye d'années, c'était pas du tout les mêmes conditions, c'était pas non plus les mêmes Formule 1, puis aujourd'hui il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, le fait de aujourd'hui un circuit peut pas vivre seulement pour la Formule 1, faut aussi vivre pour d'autres championnats, tout ça c'est codifié. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à vouloir le défendre, même si je suis pas fan de tous ces circuits.
Non mais enfin pour enlever les habits de débattant, pour le coup moi je suis un peu dans ta ligne de pensée, parce que finalement Tilke a quand même produit aussi des beaux circuits, faut
oui.
le reconnaître. Mmh. C'est voilà, il y a évidemment il y a des circuits moins
la Turquie,
la Turquie. Voilà, je veux dire, Malaisie, Turquie, c'est quand même
peut-être
pas mal.
Austin, même, on va voir.
Austin a l'air très bien aussi. Mmh. Voilà. Après, comme je pense que l'argument principal, c'est Gus Gus qu'il avait pour le coup, parce que c'était l'idée de se dire que Tilke, il est aussi l'architecte d'une période de la F1, qui est la période de l'après 94, des changements sécuritaires, et finalement, il est l'architecte qu'on veut, puisque c'est l'architecte, on va dire entre guillemets. Sécuritaire. C'est un peu ça le problème, mais c'est toute une manière de raisonner qui implique d'attaquer Tilke, pour le coup, je pense, c'est sûr, n'y est pas pour grand chose. Après, bon, je pense que le reproche qu'on peut lui faire, c'est, voilà, de quand même pas prendre beaucoup de risques sur la création des circuits, même s'il y a des circuits très
ouais, mais bons. En même temps, j'ai envie de dire, c'est que si on mettait plusieurs personnes, il y aurait, à un moment donné, le risque, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des moments donnés où, il y a des visions totalement différentes, mais il y aurait aussi le risque, il y a des virages pareils, des enchaînements pareils ou des choses pareilles. Qu'on peut quand même reconnaître à Tilke quand on regarde tous les grands prix qu'il a fait, ne serait-ce même le fait qu'il en ait fait des très bons et des très mauvais, c'est vraiment le fait que certes il a certains défauts, certains traits de caractère, ces longues lignes droites et compagnie, qui sont davantage dictés par la réalité de la Formule 1 actuelle, mais que fondamentalement, quand même, à chaque fois qu'il y a un nouveau circuit, il y a quand même quelque chose de nouveau. On peut très bien ne pas être fan de Bahreïn, mais il y a des enchaînements au Bahreïn qui sont assez sympas, il y a une belle fluidité à Bahreïn, ce qui n'est pas gagné dans tous les circuits d'Hermann Tilke. En Chine, on peut très bien ne pas aimer le Grand Prix de Chine, mais il faut reconnaître qu'il y a l'escargot, les 2-3 premiers virages là, qui sont, enfin, c'est juste énorme en Formule 1. Voilà, c'est tout l'intérêt du Grand Prix de Chine. Il y a aussi la longue ligne droite et le gros freinage aussi qui est intéressant. La Corée, c'est aussi quelque chose de différent. C'est 3 circuits en un. On a eu l'occasion de le répéter il y a 10 jours. Donc, à chaque fois, quand même, il essaye lui-même de se réinventer, de proposer des choses différentes. Et c'est ça aussi qui est peut-être bien d'avoir un seul et même architecte, c'est d'avoir quelqu'un qui
bah, a du recul sur tout ce qui a déjà été fait, qui sait déjà ce qui a été fait et qui est dans la nécessité indirectement de se renouveler, de faire quelque chose de nouveau parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose de nouveau.
Oui, non, non, mais de toute façon, Teal'c, il est, voilà, il fait partie aussi d'un système et ce système lui impose enfin, il a des exigences et malheureusement, il peut pas s'en départir. Personne ne peut s'en départir. Après, bon, moi, mon reproche principal, c'est pas tellement sur Teal'c que d'ailleurs, hein, c'est surtout de essayer de diversifier. Je veux dire, ça va peut-être pas marcher, ça sera peut-être nul, mais bon, au moins, ça sera pas Teal'c. Il y a ce côté un peu monopole qui est agaçant, quoi, parce que le monopole, tu prends le bon, mais tu prends aussi le mauvais, quoi, et malheureusement.
Mais monopole, c'est aussi une attirance, c'est aussi une assurance.
Ah, mais parce clairement, que... mais de toute façon, oui, s'il y a un monopole, c'est qu'il y a une raison, hein. Et
c'est pas... Quand t'as Teal'c derrière, c'est que tu sais que le projet, il est valable, quoi. C'est que tu sais que c'est le mec qui fait les circuits de la F1, qui a une certaine, quand même,
ah bah non,
crédibilité et compagnie. Là, au moins, t'es sûr d'avoir quelque chose qui va correspondre et qui sera prêt dans les temps parce que le mec, il a de l'expérience. Quand on dit Teal'c aussi, il faut rappeler que c'est tout un cabinet d'architecture derrière qui fait des circuits et compagnie. Ils font pas que des circuits de Formule 1 et compagnie. Donc, c'est quand même des gens qui sont professionnels et qui connaissent et qui sont aussi capables de faire sortir des circuits de terre. Enfin, aujourd'hui, quand on voit les délais pour faire un circuit, quand on voit Austin, c'est absolument incroyable. Voilà, c'est aujourd'hui, en 2 ans, on a un Grand Prix qui sort de terre, quoi. C'est hallucinant. Avec quelqu'un d'autre, faudrait forcément peut-être, ce qu'il faudrait, c'est passer par des architectes qui passent par l'entreprise Teal'c, qui bénéficie de l'expérience de Teal'c, mais un architecte qui aurait sa propre vision, tout en bénéficiant effectivement de l'expérience de Teal'c. Je crois que c'est Teal'c Engineering.
Après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que il y a que Teal'c qui a cette expérience, et si personne d'autre le fait, on peut pas donner de l'expérience aux autres. Enfin, voilà. Bon, fondamentalement, j'ai pas plus de grief que ça contre lui. Enfin, une époque, on l'a beaucoup tapé. Bon, ça va, quoi, 2 minutes. C'est pas, de toute façon, c'est pas le circuit. Et je vais te dire, c'est pas le circuit, la plupart du temps, qui fait la qualité de la course, hein. On l'a bien vu, cette saison, je pense, hein, donc.
Non, et puis c'est vrai que sur Teal'c, vraiment pour finir, nous on critique pas Teal'c. Généralement, quand on critique Teal'c, c'est pas tant Teal'c qu'on critique, c'est les normes, la sécurité qu'on impose aujourd'hui, qui rendent les circuits moins compliqués, tout simplement parce que le défi n'est pas le même. Là, on a vu en Inde, et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en Inde, ils ont décidé de mettre des gros boudins et compagnie, et pour justement obliger les pilotes à ne plus bouffer les vibreurs et compagnie. Mais en même temps, derrière, les gens viennent gueuler parce que on met des vibreurs, c'est dangereux, ça risque de faire sauter. Mais en même temps, on va aussi gueuler parce que les circuits sont trop faciles. Là, les pilotes sauront, Massa l'a appris à ses dépens, les pilotes sauront que dans les chicanes rapides du Grand Prix d'Inde, faut pas faire le con. Et moi, finalement, je suis plutôt content qu'il y ait ce genre de choses-là. Il y a peut-être un risque derrière, mais au moins, les pilotes sont au courant, quoi.
Dino, d'autres questions dans le répondeur ?
Oui, nous avons une question de François92. Qui nous pose la question suivante. Salut le SAV, avant tout, merci pour votre émission que j'écoute toujours avec plaisir et parfois très instructive. Je me demande justement, on parle beaucoup du moteur turbo, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Puis on nous parle aussi du biturbo, qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, dans l'émission du Japon, votre invité parle d'un V6 turbo Renault. Ils auront donc un avantage pour 2012 parce que c'est un moteur qu'ils savent fabriquer. Que pensez-vous de son bruit ? Merci pour toutes vos réponses, François 92. Alors là, on parle de technique.
Oui.
Et on a décidé quand même de mettre Gus Gus au repos, parce que généralement les questions techniques c'est lui qui se les fade, et on s'est dit on va consacrer 3 heures.
Non, je corrige, j'y réponds avec plaisir.
Oui, mais voilà, on a quand même décidé que là, surtout qu'on a reçu la question donc un jour avant l'enregistrement, on a reçu 2 questions, on va en répondre à une, il y a une autre question on ne pourra pas répondre parce qu'on n'a pas eu le temps de la préparer, c'est une question qui demande beaucoup de préparation, et là c'est pareil, on voulait pas non plus demander à Gus Gus de travailler, donc... je me suis dévoué. Je dois dire que tout ce que je dis est approuvé par Gus Gus. Alors, c'est mon propre. Alors, quand même.
C'est honnête.
Approuve. Je le passerai au final. Mais bon.
Donc, alors, qu'est-ce qu'un turbo? Avant tout, il faut rappeler qu'un moteur fonctionne grâce à la combustion dans les cylindres, d'un mélange air-carburant, l'air seul permettant, grâce à l'apport d'oxygène, la combustion. Par conséquent, plus il va y avoir d'air dans les cylindres, meilleure sera la combustion. Ainsi, le principe de base du turbo consiste à augmenter la quantité d'air et donc d'oxygène dans les cylindres du moteur afin d'assurer un meilleur rendement et donc une meilleure puissance. En gros, pour visualiser, c'est comme quand on fait un barbecue ou un feu de camp, on allume le feu quand il y a des braises. Pour raviver les braises, on souffle sur les braises.
Il reste à ce moment-là, aussi
souffle. Peut-être. On souffle sur les braises et à ce moment-là, bah, les braises vont rougir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles dégagent plus d'énergie dans la mesure où on a apporté davantage d'air et d'oxygène à plus haute pression. Donc tout ça, c'est favorable à la fabrication d'énergie. Le turbo doit donc permettre au Formule 1 de 2014 de développer à peu près la même puissance qu'actuellement avec un plus petit moteur, ce qui offre donc l'avantage d'être moins gourmand en carburant et donc de véhiculer une image un peu plus verte de la F1, même si on sait que c'est des conneries. Voilà, même si vous mettez un moteur turbo vert, il y aura toujours des gens qui diront « Ah, mais la F1, ça pollue ». Alors, le turbo, alors concrètement, le turbo, il va utiliser les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine, d'où le nom de turbo, avant de ressortir naturellement par les échappements de la voiture. La turbine qui tourne ainsi grâce aux échappements est reliée par un axe à une autre turbine qui, elle, va accélérer l'air ambiant avant qu'il n'alimente le moteur. Tout le monde, ça c'est clair ?
Oui, oui.
Voilà.
Ouais, bah, non, mais ça compte pas.
Il a juste à penser à un truc, il voit le schéma de oui. dans sa tête.
Il récupère la gaz, puis ça fait, c'est une turbine, quoi, justement, comme tu l'as dit.
Alors, faut savoir que c'est pas nouveau, le turbo, hein. Le brevet a été déposé dès 1905 par un ingénieur suisse, et que c'est surtout dans les années 70, qu'il va véritablement se développer sur les voitures de route, notamment chez Porsche et chez Renault. À l'époque, justement, où Renault va arriver en Formule 1 avec ses fameuses Yellow Teapot, à moteur turbo. Alors, le turbo va imposer cependant certaines contraintes. La première, c'est que plus l'air va circuler rapidement, plus il va augmenter en température. Et plus la température de l'air est élevée, plus sa densité est faible. Or, pour un meilleur rendement du moteur, il faut que l'air qui l'alimente soit le plus dense possible. Donc, par conséquent, il va falloir développer un système de refroidissement, ce qu'on appelle un intercooler, pour refroidir l'air qui a été accéléré par le turbo, le refroidir avant qu'il n'entre dans les cylindres, pour qu'il se densifie. D'accord ? Parce que le but du turbo, c'est quand même d'apporter plus d'air. Il faut que cet air soit dense. La deuxième contrainte, elle réside dans le fait que, comme le turbo utilise des gaz d'échappement, plus ces gaz vont être rapides, plus la turbine va tourner vite, accélérant ainsi la vitesse de l'air circulant dans le moteur, qui en ressort donc à plus grande vitesse, faisant tourner la turbine encore plus vite, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux qui peut devenir vicieux. Ça peut d'abord occasionner des problèmes techniques, des problèmes mécaniques sur le turbo, mais ça a aussi un impact sur l'efficacité, puisque le turbo n'aura pas la même efficacité s'il est à bas régime ou à haut régime. C'est notamment pour cela que quand on joue à Gran Turismo, quand on veut ajouter un turbo sur une voiture, il faut se fader trois étapes. L'étape bas régime, l'étape régime moyen et l'étape haut régime. Parce qu'un turbo va avoir des qualités qui vont être positives pour le bas régime, mais s'il est positif pour le bas régime, il va avoir des inconvénients pour le haut régime. Et vice versa, un turbo qui est bon pour le haut régime va plutôt pénaliser les performances à bas régime. Jusque-là, je ne trompe pas, ça va, Gus.
Tout va bien.
Ouais, ouais. À la fin, il me met une note, il me donne mon bac. Alors, il faut donc trouver un compromis pour que le flux des gaz d'échappement permette au turbo d'être aussi efficace à bas qu'à haut régime. Alors pour cela, on va tout simplement détourner une partie des gaz d'échappement pour qu'elles ressortent naturellement par les échappements sans passer par la turbine. Donc ça se fait par une petite valve, hein. Dès que la vitesse, tout ça c'est géré par l'électronique, dès qu'il y a trop de gaz d'échappement qui arrive dans la turbine, il y a une petite valve qui s'ouvre, qui laisse échapper une partie du flux, comme ça on revient dans des normes acceptables et le reste du flux d'échappement s'écoule naturellement comme sur une voiture actuellement. À noter que comme les gaz d'échappement passent par une turbine, ça a un impact sur les échappements, ce qui n'est pas anodin quand on parle de Formule 1 et qu'on sait que les échappements ont pris une importance primordiale ces dernières années dans le fonctionnement des Formule 1. Et enfin, il y a une troisième contrainte qui s'applique tout particulièrement aux moteurs avec une structure en V, comme le sont et le seront les moteurs de Formule 1 en 2014. En effet, pour que le turbo fonctionne de façon optimale, il faut que les gaz d'échappement soient à température optimale. Il faut donc éviter toute déperdition de chaleur entre les cylindres, d'où vont sortir les gaz d'échappement, et le turbo. Et par conséquent, on va essayer de connecter le turbo le plus proche possible du cylindre. Mais sur un moteur en V, c'est pas facile parce qu'il y a un creux entre deux rangées de cylindres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter deux
deux turbos, d'où le nom de biturbo. On va monter deux turbos sur chacune des rangées de cylindres, et ces turbos après font le fonctionnement normal du turbo et accélèrent l'air et fonctionnent parfaitement. Mais voilà, il y a deux turbos. C'est là où Gus Gus il m'a dit « Ah, il manque des trucs !» Parce que l'inconvénient de ce biturbo, qu'on appelle une installation en parallèle, c'est que si les deux turbos sont trop gros, le problème de temps de réponse va rester. C'est-à-dire qu'en fait, avec un moteur turbo, vous avez un temps de réponse dans la transmission de la puissance. Et si les deux turbos sont trop gros, il y aura toujours ce problème-là. Au contraire, si les deux turbos sont trop petits, le gain du turbo au régime sera moins important que ce qu'on espère. C'est pour cela qu'on va préférer un montage en série qui va consister à aligner un petit turbo qui permettra une mise en action à bas régime plus rapide, sans temps de réponse dans la transmission de la puissance, aligné derrière avec un plus gros turbo qui lui permettra à haut régime de maintenir un bon niveau de performance. Donc voilà pour un peu expliquer le fonctionnement de base du turbo. Maintenant, et là je me tourne vers Gus Gus, qui maîtrise un peu mieux le règlement technique 2014 que nous, parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas question d'avoir un biturbo en Formule 1 en 2014.
Oui, le règlement en 2014 stipule qu'il peut y avoir qu'une seule turbine, donc c'est un monoturbo. Par contre, il y a une petite nouveauté technique pour 2014 que les ingénieurs vont pouvoir mettre à contribution pour résoudre leur problème de temps de réponse. C'est le fameux HERS, H-E-R-S, qui en fait utilise le même principe que le KERS. C'est un petit moteur électrique qui est branché quelque part, sauf que lui il est branché directement sur l'axe du turbo. Donc quand le turbo tourne, il va recharger la batterie. Soit recharger la batterie, soit même directement fournir de l'énergie pour le fonctionnement du KERS. Et à volonté de quand le pilote décide, le HERS peut au contraire restituer de l'énergie au turbo et donc permettre au turbo de mieux fonctionner à bas régime parce qu'il est alimenté et par les gaz d'échappement et par le petit moteur électrique. Du coup, en quelque sorte, le HERS joue un rôle du petit turbo dans un moteur biturbo, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'un moteur biturbo. Et l'avantage de ce HERS, c'est que lui n'est pas limité en termes de régime ou de puissance qu'il apporte en plus. C'est-à-dire que c'est un des domaines qui sera totalement libre pour les ingénieurs et je pense là où ils ont le plus à gagner, à faire des recherches. Il faudra aussi qu'ils trouvent un équilibre entre le HERS et le KERS parce qu'ils ont une quantité d'énergie stockable qui est limitée et un poids de batterie aussi qui est à pas dépasser.
Alors justement, en parlant de Renault, c'est vrai qu'on a eu un invité au Japon qui nous a parlé du V6 turbo Renault. Faut savoir que sous l'ère turbo, Renault n'a utilisé que des V6. L'intérêt justement d'un turbo, c'est de pouvoir, c'est comme c'est d'augmenter la performance. C'est soit vous gardez votre moteur, vous rajoutez un turbo dessus, c'est là votre moteur, vous pétez le feu. Soit au contraire, ce que cherche à faire la Formule 1 aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir la même performance mais avec un moteur plus petit. Déjà avec des V6 turbo, je crois que Renault ils arrivaient à développer quelque chose comme 1200 chevaux. Dans les années 80 en qualification, donc c'est une Formule 1 aujourd'hui c'est
des monstres hein,
ouais, voilà.
Les turbos des années 80,
oui. Donc il faut clairement dire c'est qu'on n'aura pas une ère du turbo comme on a eu dans les années 80, c'est que vraiment oui. C'est là le turbo c'est vraiment avec l'objectif d'avoir la même puissance qu'aujourd'hui, donc il y aura pas de théoriquement il y aura pas d'escalade de la puissance.
Et même ce que dit Renault c'est que le moteur V6 turbo seul sans les systèmes de récupération d'énergie et développe moins de puissance que le V8 actuel là encore sans le KERS. Ça c'est dû la baisse de performance depuis les années 80 c'est dû aux contraintes qui ont été mises sur les moteurs. Le règlement est très précis sur la façon de construire le moteur et notamment le flux d'essence qu'on peut apporter que le moteur peut injecter dans le moteur.
Alors d'où la question après derrière de quel est l'avantage pour avoir Renault. Renault a pas été les seuls à avoir des V6 turbo, je crois que Ferrari utilisait aussi des V6 turbo à l'époque. Donc voilà, il y a pas théoriquement d'avantage en soi puisque les autres aussi avaient des V6 turbo et surtout comme l'a dit Gus Gus, c'est aujourd'hui il y a d'autres données qui vont modifier forcément la conception des moteurs turbo, l'intégration du HERS et compagnie qui vont modifier forcément la philosophie de construction et qui vont donner peut-être place à davantage d'interprétation de la part des équipes. Donc encore une fois, ce sera les plus malins qui peut-être accoucheront du meilleur moteur. Et enfin, il y avait une troisième partie de la question, c'était que pensez-vous du bruit ? Et messieurs, je vous propose.
Ah, justement, c'est que forcément.
De plus simple, c'est on parle du bruit, je vous propose, c'est d'écouter le bruit des quatre moteurs, de V6 à V12. Hein. Donc j'ai été chercher sur internet des sons de.
Mais c'est du V6 normal, sans le turbo.
Non, du V6 turbo.
D'accord.
Donc c'est V6 turbo, que j'ai dit pas de bêtises, parce que j'ai noté, mais j'ai noté les sources.
Le dis pas, parce que.
On peut reconnaître même.
À l'oreille.
Vous voulez reconnaître.
Non, mais à l'oreille, on juge. Oui, bah, évidemment.
Tu sais que j'ai déjà été mis au défi par des amis, je reconnaissais. Alors.
Reconnaître la marque?
Oui. Enfin, c'était des moteurs récents. Après, moi, j'étais pas né à 80. Ouais.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer les quatre, enfin, un par un. Vous allez me dire si vous pensez que c'est le V6 turbo, le V8, le V10 ou le V12. Et puis, à la fin, je vous dis pas tout de suite, à la fin, on verra qui a eu le plus de bonnes réponses. D'accord ?
Okay.
Alors, merde. Alors, allez, le premier. Alors celui-là, c'est la seule exception, il n'a pas été pris en caméra embarquée, il est pris directement sur le banc moteur, donc la qualité du son est meilleure. Alors, on va commencer Shinji, tu penses V6, turbo, V8, V10, V12 ?
Je vais passer pour un construit. Moi je dirais V6 turbo.
D'accord, Fab ?
Ouais, je dirais V8.
Et Marc ?
C'est un V10.
Quelle marque ?
Renault.
Quelle année ?
Oh, début des années 2003. Hein,
peut-être, je dirais ça là.
Numéro de série des cylindres ?
Alors, 88 hein B52.
Le nom du mec qui a fabriqué les cylindres. Ensuite. Alors, Fab, parce que c'est quel moteur ?
V6 turbo.
Shinji ?
V6.
Donc toi, tu penses qu'il y a deux moteurs ?
Non, mais pas.
Non. Ou alors tu viens de te rendre compte que t'avais fait une erreur.
Ah, c'est un V6 Marc. Turbo. Alors après, la marque, je sais pas. C'est décevant, je sais.
Ouais, mais...
allez, un Honda.
Oh. Je ne dis rien.
Mais c'est un bruit beaucoup plus rauque.
Ouais, oui.
Bah, ce qui est certain, c'est que c'est clairement identifiable. Ouais, voilà. Attention aux oreilles. J'ai oublié de le dire au début, mais voilà, baissez le volume, hein, parce que normalement là c'est déjà fait, mais baissez le volume. Alors, Shinji ?
V12.
Ok, Fab ?
Le bruit m'impressionne moins, je dirais V8, pour le coup.
Donc, comme le premier.
Ouais, enfin, avant, le bruit. Je sais très bien que le bruit, je me suis gouré comme une merde, alors.
Et Gus ?
Non, c'est un V12, je crois. Je crois pas que ce soit un Ferrari. J'irais un Honda aussi.
D'accord. Juste pour information, est-ce que vous avez un peu reconnu le
Suzuka ?
Oui. C'est le 130R, c'est la sortie de Spoon, le 130R, on sent qui relâche un petit peu dans le 130R, et après c'est la chicane. Et enfin, the last one.
longue ligne droite.
C'était la Chine.
En plus, j'ai failli le dire, je me suis dit, tiens, ça pourrait être la Chine.
Donc alors, Fab.
Bah, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai pas dit V12? Non, oui, bah.
Est-ce que celui qui ne peut pas désirer parce que.
Ouais, mais bon, je vais pas mettre 3 V8, ça va se voir.
Il a joué avec V8 cette fois juste pour avoir joué cette fois. Donc tu me dis quoi?
Je dis V12, en sachant que c'est V8.
Tu dis?
Bah, V8.
T'as la chance de pas avoir mis V8 avant, toi. Et, Gus.
Ferrari, je dirais. Je suis pas sûr du tout.
Ok.
J'avoue, je me suis un peu pété quand je me suis dit, ouais, je connais les noms du chien.
Ce qu'on va faire, c'est que, bon, Gus, t'as gagné, hein. Mais on va quand même devoir compter, bon, seulement ceux où t'as trouvé le bon constructeur.
On nous laisse une chance.
Oui. Non, déjà, je peux dire que Fab. Alors sur le premier, c'était un V10 Renault sur le banc. Voilà, sinon vous auriez entendu Fernando Alonso en 2005 à Bahreïn. Voilà, donc c'est le V10 de 2005. Non, celui-là c'est le V10 de 2004, j'ai une bêtise. Celui-là c'est le V10 de 2004. L'autre c'était un V10 de 2005, mais voilà. Alors chez lui, tu avais dit V6, non, ça fait 0 points. Fab, tu avais dit V8, ça fait 0 points. Gus, tu avais dit V10 Renault, bravo, ça fait 1 point. Ensuite, le deuxième c'était le V6 Turbo que tu as reconnu, Shinji, que tu as reconnu Fab et que tu n'as pas reconnu. Ah. C'est ce que c'est le V10 Turbo Renault de 1985, le EF15 de 85.
Et après, ça donne des conseils sur les chroniques. Oh, hein, ça va 2 minutes, les gars.
Donc là, ça fait un partout. Ensuite, le troisième, c'est le V12. C'est ce petit bruit cristallin, le V12 de la Ferrari de 1995, conduit par Fernando Alonso.
Déjà,
c'est pas déjà là.
Celui de 95, c'est l'un des tout derniers. En plus.
C'est l'avant-dernier Grand Prix du Ferrari. Je crois qu'il y a eu un Grand Prix après, ça devait être Adélaïde. Mais c'est voilà, c'est le dernier V12 de l'histoire de la F1 jusqu'à présent. Donc bravo Shinji, tu l'as découvert, ça fait 2 points pour toi. Ah Fab, dommage, le V8 a coûté cher, ça fait toujours 1 point. Et donc Gus, tu l'as compris, ce n'est pas un V12 Honda. Ça existe.
C'est dégueulasse. Même moi, je suis obligé de dire, c'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire.
Ouais, je m'en fous. Au fond de moi, je sais que.
Enfin, le dernier, c'est en effet un V8. C'est le V8 de Kimi Raikkonen cette année, le V8 Renault. C'était au Grand Prix de Chine cette saison. Et donc, bravo Shinji, tu avais trouvé le V8. Fab, je t'accorde un demi-point. Parce que t'as trouvé le V8. Et désolé, Gus, mais ce n'est pas le V8 Ferrari. Donc au total, le
patron, bravo Shinji. J'ai honte de cette victoire.
Fab, tu es deuxième avec 1 point.
On dirait le quiz.
Tu as un point.
Gus,
mais t'as pas l'impression, Fab, qu'on dirait le quiz là? Je suis un peu traité pareil que nous.
Ouais, pardon. Non, mais c'est dégueulasse.
Je souhaite m'excuser auprès des auditeurs pour ce qui vient de se passer.
Non, mais quand même, Gus, bravo parce que t'as reconnu les 4. C'est pas forcément facile, surtout pour les 3 V8, V10, V12.
Pour donner, parce que c'est vrai que moi, par exemple, typiquement, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un truc que moi, je sais pas différencier. Tu le différencies comment?
J'ai regardé beaucoup de vidéos. À un moment, je sais pas, c'est comme ça.
Mais est-ce que par exemple, quand on va vers le V12, on va vers un son
alors,
plus
est-ce
aigu,
que vous voulez,
plus grave?
Est-ce que vous voulez que je vous passe? Moi, j'ai fait un fichier qui dure à peu près 1 minute 30 où on a du V6 turbo au V12 dans l'ordre et comme ça vous pourrez voir, ça fait un peu la gamme.
Parce que moi je saurais pas vous répondre sinon. Enfin.
Ouais, bah c'est ça, c'est voilà, c'est à force, c'est l'habitude quoi.
Je dois avouer que pendant des années, j'ai dit, oh, on s'en fout du bruit. Mais putain, le V12 quand même.
Bah, alors, là, tu vois, on posait la question Fab. Là, c'est beaucoup plus clair. Moi, l'impression que j'ai eue, tu vas dire Fab, c'est la même chose. Plus on monte, dans les cylindres, plus le son est aigu.
Oui, ça donne cette impression et
voilà, le V6 c'est rauque et plus on monte après et plus le son en effet part vers les aigus plus c'est cristallin. Toi-même tu l'as dit, t'as dit le son cristallin du V12. Mmh. C'est l'impression.
Alors à noter que le V10 qu'on entend c'est le V10 d'Alonso au Bahreïn en 2005. En caméra embarquée, donc là pour le coup, c'est dans les mêmes conditions que les autres. C'est peut-être aussi ce qui vous a trompé sur le premier.
C'est quand même de...
La qualité sonore est parfaite parce que on est dans le banc d'essai, quoi. Donc,
après, je dis pas que c'est ça qui m'a fait me planter.
On va
être honnête un petit peu.
Donc en tout cas, bravo messieurs, franchement vous avez pas mal sorti parce que c'est pas un exercice facile. On espère en tout cas que les gens ont pris du plaisir en écoutant. Je pense que c'est sans doute pour certains le moment préféré de toute l'histoire du SAV. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai trouvé une vidéo assez rare du Grand Prix du Japon 95, justement, en HD, avec que des caméras
HD
embarquées. Il y a deux vidéos qui durent, HD, qui durent 30 minutes, et que des vidéos embarquées où vous voyez la Ferrari, donc le V12 Ferrari, mais aussi les Renault de Benetton. Il y a aussi le Cosworth, il y a le moteur de McLaren, donc le Mercedes, et on le mettra sur la page Facebook du SAV SAV de la F1, voilà, pour que vous puissiez voir les deux vidéos et vous puissiez vraiment profiter du son HD. C'est un peu plaisir. Moi je me suis tapé les deux à la suite, je me suis flingué les oreilles, mais c'était bien. Parce que là vraiment vous avez du V10, vous avez du V12 et vous avez des... Là vraiment on voit aussi la différence de bruit entre les différents motoristes.
Oui, et il y avait du V8 à l'époque encore aussi,
ouais.
Déjà.
Oui.
On a quand même une dernière question, qui est une question un peu plus philosophique. Bonjour à tous, c'est une question de Steve. Quelle est selon vous la définition d'un top team? Et donc, d'après vos critères, quels sont les top teams actuels en Formule 1? Lotus et Mercedes en sont-ils? Bonne émission.
Ah. Bah déjà,
je ne vois qu'un top team.
Non, soit il faut vraiment... J'allais dire une histoire, mais en même temps, si tu prends cette définition-là, Williams c'est un top team en ce moment, alors que c'est pas vraiment ce qui rentre dans la définition actuelle, quoi.
Il y a un mélange d'histoire, mais aussi de résultats.
Voilà,
de résultats. C'est dans le sens où un top team ça peut évoluer.
À court terme, Red Bull est un top team aujourd'hui, mais
oui,
il n'a pas été au début.
Si c'est à court terme sur les résultats, un top team c'est les équipes qui gagnent, c'est la classe des équipes qui gagnent, voire même la classe des équipes qui jouent le championnat.
Ouais, c'est ça en fait un top team. Pour moi, un top team, ça serait une équipe qui est capable sur une période de 3 à 5 ans de se battre avec constance pour la victoire. Et ça, si on regarde aujourd'hui, si on doit tenir des top teams, bah clairement il y en a 3, les 3 équipes qui se battent pour le podium depuis 3 ans et qui sont d'ailleurs les 3 équipes du podium depuis 3-4 ans, c'est Ferrari, McLaren
et
Red Bull, avec les deux autres derrière qui ont les moyens, l'ambition d'être des top teams, Lotus et Mercedes, mais qui pour le moment ne sont pas encore montrés capables de pouvoir prétendre à la fois au titre et à la victoire ou au podium régulièrement sur 3 ou 4 ans.
Tout dépend de l'échelle que tu choisis, parce que c'est vrai que dans l'absolu
sur 20 ans
sur 3 à 5 ans t'as déjà un truc qui sera représentatif d'une d'une régularité dans le fait d'être tout le temps à top, enfin dans
mais
le
en
fait
même temps les top
à l'avant
ça, top ça évolue au cours de donc
bah, c'est ça parce
qu'on peut pas non plus prendre 10-15 ans. Williams a été une top team.
Ouais, mais ça dépend. Si tu prends sur l'échelle d'une saison, Brown a été une top team. Tu vois, c'est...
Oui, tout à fait.
Ça dépend l'échelle que tu prends, quoi. Mais c'est top team, de toute façon, son nom l'indique, c'est les équipes qui jouent, qui sont à l'avant, quoi, qui jouent la victoire, qui jouent le podium.
Après, c'est vrai qu'il y a toujours la dimension historique.
Ouais.
On se rappelle de Ferrari dans les années 80, c'était pas en soi un top team, mais il y avait quand même cette dimension historique, ce palmarès et compagnie, qui peut-être rentrer en ligne de compte, mais c'est en soi, on voit par exemple Mercedes, où on voit Lotus plutôt sous l'acceptation Renault, Benetton, voilà. Moi, je considère top team plutôt sous cet angle-là, parce que le lien avec Lotus, il est obscur et il est lointain, mais si on prend ces deux-là, c'est des statuts un peu intermédiaires, c'est des écuries historiques, c'est pas encore des top teams, c'est des écuries historiques qui ont le potentiel, qui ont aussi le pouvoir d'attraction que peuvent avoir les autres, mais qui n'ont pas ce truc nécessaire qui fait les top teams, c'est la victoire, c'est la possibilité de se battre pour le titre et accessoirement peut-être aussi une capacité de réaction, ce qu'on voit aujourd'hui, enfin les trois équipes qui réagissent le mieux en termes de développement, c'est les trois top teams, et voilà, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les résultats aussi pour le faire.
Après, je sais pas vous, mais quand on rédige un article et qu'on met écurie de pointe. Moi, par exemple, aujourd'hui, cette saison, je sais que ça a varié, quoi, parce que en début d'année, les top teams pour moi, c'était, les écuries de pointe plutôt en français, c'était Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes. Après, au début de saison, j'ai rajouté Lotus. Après, j'ai enlevé Mercedes et maintenant c'est les trois écuries qui sont à la tête du championnat.
Moi, sur les écuries de pointe, moi je mets les ouais. les cinq.
C'est comme ça que je vais.
De Lotus, hein, de Mercedes à Ferrari, parce que ça englobe les trois vraiment top teams, les trois écuries de pointe réelles en termes de performance, plus les deux qu'ont le potentiel d'être des top teams. Mm. Les autres, on sent que soit Sauber et compagnie, c'est encore une classe un peu en dessous. Ils sont un petit peu dans un statut intermédiaire. Et d'ailleurs, au début de saison, enfin quand on voyait Lotus et qu'on voyait Mercedes, on partait dans l'idée de se dire les cinq équipes vont se battre pour le championnat contre toi et compagnie, puis en fait on se rend compte qu'il y a toujours le groupe de trois qui ressort malgré tout.
La top team en début de saison, son objectif c'est de gagner le championnat.
Et
le
je veux dire que Barrichello est un top team.
Écoute, à lui tout seul, oui.
Et donc c'est tout pour les questions du répondeur. On vous remercie, on vous rappelle donc dans trois semaines, il y a une nouvelle édition du répondeur pour nous poser vos questions. C'est répondeur@savf1.fr.
On rappelle la semaine prochaine, c'est le Grand Prix d'Inde. Il y a le concours. Donc
si
je me rappelle, la question c'est combien il faut de Kartikeyan pour faire la distance du circuit du
combien
Grand Prix.
Combien de Neeran Kartikeyan allongé faudrait-il au minimum pour faire un tour du circuit de Boud? Question proposée par Ludovic.
Donc on vous rappelle, hein, si vous voulez répondre à la question, c'est concours@savf1.fr. En plus cette semaine, parce que tu nous l'as dit la semaine dernière, la semaine dernière, il y a des trucs à gagner.
Il y a des gros trucs à gagner. Il y a du lot première catégorie. Jamais on a offert ça dans le
SAV. Les poches du salon de l'auto, c'est ça?
c'est tous les trucs qu'on peut chaparder sur les comptoirs du salon de l'auto. À noter qu'il y a 6 trucs, il y en a 2 qui servent à rien et qui sont moches et que vous cacherez parce que vous en aurez honte. Il y a 2 trucs. Bon, l'utilité se discute, mais ça peut être utile, c'est tout. On est bien content de l'avoir et il y a 2 trucs sincèrement qui peuvent vous sauver la vie. Non mais sincèrement, je dis, il y a 2 trucs qui peuvent vous sauver la vie. Et vous serez bien content d'avoir.
On vous rappelle, comme d'habitude, hein, on est sur Podcast France, hein, le grand site français qui réunit une pléthore de podcasts différents. On est sur iTunes.
Oui, et vous pouvez mettre 5 étoiles.
Ça fait plaisir.
Comme, d'ailleurs, vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles sur Podcast France.
Oui, c'est vrai.
Il y en a qui nous ont mis 3-4 étoiles, c'est pas bien. On n'est pas d'accord.
Sans dire pourquoi, d'ailleurs. C'est surtout ça.
En plus. Ouais.
Mm-hmm. On va pas vous parler de Golden Blog Awards, parce que...
Shinji, il faut vous dire, chers auditeurs, c'est... On peut gagner les Golden Blog Awards, j'y crois, on peut les gagner. Voilà, maintenant,
oui, donc,
c'est
de toute
fini
façon,
pour
vous voter.
Vous pouvez plus voter, mais vous pouvez quand même encore agir, puisque le jury n'a pas encore voté. Et là, vous pouvez influencer le jury. Écrivez aux Golden Blog Awards, envoyez-leur des lettres, envoyez-leur des mails, menacez de faire grève et compagnie, écrivez, c'est Franck Provost, je crois, qui est sponsor. Et allez dans votre boutique Franck Provost et dites, on veut le SAV qui est le Golden Blog Award.
Dans notre catégorie, c'est Nuance. C'est un éditeur des logiciels Dragon de le reconnaissance.
Et allez dans votre Leclerc ou à la Fnac, où il faut jancer d'un troisième, à Virgin, vous dites, je vous achèterai du Dragon seulement si le SAV de la F1 a le Golden Blog Award dans leur rubrique podcast. Si vous travaillez à EDF, n'hésitez pas à couper le courant aux gens des Golden Blog Award. On leur dit, on vous rendra le courant quand le SAV de la F1 aura un award.
Sur Twitter, il y a le hashtag SAVF1. On est sur Facebook aussi.
Oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe, Shinji, mais il y a des gens qui publient sur Facebook.
Mais qui c'est dingue. Ce branlo.
Et comme d'habitude, on va finir sur les deux phrases magiques. La première, c'est que le SAV de la F1, c'est...
Ma famille.
Le rite des podcasts. Qui a inventé cette phrase à la con?
La famille. Non, faut pas qu'on prenne l'accent.
Non, mais c'est l'accent sicilien, c'est pareil.
Et n'oubliez pas, la F1 sur Internet... C'est sûr.
Panef1.com.
Ça faisait blanc de prendre ce que vous voulez.
Bien.
Allez, ciao.
Non, c'est sur panef1.com, bien sûr.
Ciao à tous.
Allez, salut.